Voilà, donc l'école de Barbizon, là, comme d'habitude, on fait une petite pause. C'est vraiment très effectivement local, mais il y a eu autour de l'école de Barbizon d'autres petites écoles, par exemple celle de Bouron-Marlotte, qui est à côté, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un village très, très joli vers le loin. Il y a aussi une activité autour, alors ce n'est pas vraiment une école, mais autour de Sisley à Moret-sur-Loing. Et puis dans le programme, il y avait aussi envisagé de faire tout ce qui s'est passé autour de Valvin, qui est en face de Avon, Fontainebleau, où a séjourné Stéphane Mallarmé. Et là, on va dire, c'est plus les impressionnistes. Il était très proche de notamment Berthe Morisot et sa fille, etc. Et là, voilà, il y a Sisley aussi. Donc Sisley, alors, tout ça, c'est connecté. C'est des gens aussi qui se connaissent. Mais à Valvin, Mallarmé était proche aussi de Gauguin, d'Odilon Redon, qui un peintre symboliste qui a séjourné lui aussi à Samois-sur-Seine. Donc, vous voyez, c'est tout à côté, c'est en face de Valvin, la ville où a vécu aussi Django Reinhardt. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un patrimoine. Et là, on verra que Corot aussi a séjourné beaucoup à Marcoutis. Hein. Bon, ça, ouais. Voilà. Alors, avant d'aborder précisément Barbizon, revenir un petit peu sur le début du paysage en France, parce que le paysage, l'art du paysage a commencé très nettement en Hollande dès le XVIIe siècle, quasiment 2 siècles auparavant. Alors, c'est lié aussi au type de clientèle, parce que en Hollande, vous avez une bourgeoisie très aisée, une bourgeoisie y compris industrieuse, hein, des commerçants, des artisans riches, etc. La Hollande est Les Pays-Bas sont très très riches, et donc il y a une clientèle pour une peinture, on va dire, ben de décoration de maison. Et ce ne sont plus les grandes peintures d'histoire, de mythologie, de religion, les portraits de princes, etc. Vous avez tout cela qui joue. Ce qui joue aussi pour le développement du paysage en Hollande, c'est la réforme protestante qui fait que les protestants progressivement, c'est plus progressif que ce que je pensais, se détournent de la peinture religieuse, parce que ça va presque devenir un interdit. Pour pas que la peinture éloigne de la religion, pour pas qu'elle séduise au lieu de guider vers le Dieu, eh ben, on ne fera plus de peinture progressivement. Et donc les peintres vont se tourner vers des sujets profanes, paysages, nature morte, scènes de genre, scènes de la vie de tous les jours, etc. Cette idée aussi de ce qu'on dit qui est associée à la bourgeoisie, c'est la contemplation d'une sorte de bien-être, du savoir-vivre, de la nature, y compris en Hollande. Alors c'est différent parce que c'est une nature que l'on va dominer. Alors, c'est le début aussi d'une notion de domination de la nature avec justement l'industrie qui naît assez tôt en Hollande, industrie, commerce. Surtout qu'en Hollande, la nature, elle est difficile, elle n'est pas charmante. Enfin, bon, je dis ça, il n'y a pas de Hollande ici, mais il faut construire par les digues, par les canaux. Donc, c'est aussi un esprit de domination. Et cet esprit de domination, ben, progressivement, il va dominer l'Europe, il va se répandre en Europe. Et le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de la domination de la nature, domination des énergies, charbon, etc., l'eau avec les moulins, etc., domination des peuples et la colonisation, domination de toutes sortes, et la nature avec une industrialisation aussi, les matières premières. Et puis ensuite, on verra même domination des peuples. Hein, donc, des colonies, et y compris d'une nouvelle classe, classe laborieuse, classe travailleuse, etc. Donc le 19e siècle, c'est vraiment un bouleversement total au niveau idéologique, etc. Et le rapport à la nature aussi, qui était ben, un rapport relativement, j'allais dire, naturel, évident jusqu'au 19e siècle, commence à changer, parce que la nature devient vraiment un lieu d'exploitation. Un lieu d'exploitation de matières premières, de minerais. C'est transformé par une révolution aussi agraire, par la prolétarisation aussi d'une bonne partie de la population qui vient dans les grandes villes. Et ben, toute la littérature du 19e siècle, elle est aussi nourrie de cela. Alors, il y a justement un contrepoint, c'est que vous allez avoir des artistes qui, au lieu d'embrayer le mouvement général de cette exploitation de la nature, vont la regarder avec une certaine nostalgie, hein, comme un monde qui a des qualités propres. Et ils vont s'écarter aussi, alors ça correspond, là j'ai mis Pierre-Henri de Valenciennes, 1750-1819, ça correspond aussi à la Révolution française, qu'une révolution politique, mais aussi une révolution culturelle dans tous les sens du terme. Et avec, il y a l'annonce d'une grande modernité, un siècle extrêmement troublé. Le 19e siècle, il y a à peu près quatre, si on compte la Révolution française, la Révolution de 1830, la Révolution de 48 et la Commune de Paris 71, sans compter toutes les émeutes, par exemple, dont parle Victor Hugo en 1832 et d'autres, c'est un siècle d'une tension incroyable en France. Donc, on peut imaginer aussi ce que c'est en termes sociaux, sociétaux. Et donc, il y a des artistes qui se détournent, si vous voulez, un peu de ce mouvement bruyant, traumatisant, bouleversant, et en pleine révolution, et y compris se détournent des grandes idées, des grands sujets. Le sujet religieux tend à disparaître, puisque la religion, à la Révolution française, devient, c'est un premier état laïque, etc. L'histoire, elle est rattrapée par la vraie histoire. Hein, par exemple, le peintre David, justement, va peindre des peintures d'actualité, d'antiquité, d'histoire. C'est quelque chose de... Il n'y a plus de peinture de roi, et pour cause. Donc, si vous voulez, il y a tout ça qui change aussi dans l'histoire même de la peinture. Alors, par exemple, Pierre-Henri de Valenciennes, oui, il se détourne complètement, il se détourne même presque de la terre, puisqu'il regarde les cieux. Alors, ce n'est pas encore le romantisme du 19e siècle, il y aura la période romantique des artistes, mais vous avez des peintres de paysages. Comme lui, alors il est très discret, on en voit peu, ils sont exposés au Louvre, mais très discrètement, presque dans un passage, on ne les voit pas, alors qu'il y a un cadrage très original, et vous avez aussi une idée de contemplation. Alors ça aussi, c'est un bouleversement, on va dire, culturel. Toute la peinture occidentale jusqu'en 1900, enfin 1800 plutôt, c'est une peinture de connaissances, de savoir, de contenu, de sujet. Vous avez à chaque fois, on va raconter une histoire, on va raconter une mythologie, on va raconter une histoire religieuse. Il va y avoir aussi des portraits royaux. C'est vraiment quelque chose de narratif, on va dire, de très littéraire et très codifié. Et là, vous avez quelqu'un qui regarde, simplement. Ça se détourne, et en plus du vide. Et en plus, il y a bien quelque chose. La terre, ça peut raconter quelque chose. Le paysage, l'architecture, mais le ciel, bon, le climat, mais c'est en plus, c'est l'instant. Avec le ciel comme ça, vous avez aussi l'idée que c'est l'instant, quelque chose d'éphémère, de fragile. Donc quelque chose de vraiment différent, et notamment avec Valenciennes. Et Valenciennes, regardez, alors la preuve qu'il n'est pas très connu, j'ai un mal de chien à avoir des œuvres de qualité. Regardez ici, après un pixel, je l'ai agrandi, mais elle n'est pas très bien. Et là, évidemment, voyage en Italie, mais il ne va pas chercher en Italie les grandes ruines, etc., les grands monuments. C'est au contraire des cieux purs, des lignes d'horizon comme ça, et presque à contre-jour, à une certaine distance. Donc un art du paysage, alors très discrètement, que Pierre-Henri de Valenciennes commence à initier, et on peut dire qu'il est pionnier de ce point de vue. Alors, vous avez quelqu'un qui est alors un peu plus récent que Valenciennes, qui n'est pas très connu non plus, hein, Auguste Jean-Baptiste Vinchon. Moi, je ne le connaissais pas, j'ai découvert ça. Mais vous avez ces planches qui sont assez magnifiques. 43 souvenirs d'Italie, représentés sur une sorte de tout ça, mis ensemble sur des cadres. Alors, ce sont deux peintures, hein, dans lesquelles vous avez aussi quelque chose qui est proche du carnet de voyage. Alors, le carnet de voyage, j'ai fait une série entière sur ce sujet-là. C'est intéressant puisque vous avez cette idée qu'on ne cherche pas spécialement. On découvre au cours de route, vous avez l'idée du trajet, du chemin, de la surprise. Alors, même si on va en Italie, eh bien, tout le voyage pour aller en Italie peut compter. Alors, quelqu'un qui avait aussi influencé cette idée du voyage, de la déambulation et de la nature, c'est Jean-Jacques Rousseau, évidemment, avec Les rêveries du promeneur solitaire, qui est le premier texte absolument magnifique de redécouverte de la nature, de solitude et de démarche comme ça, dans la nature, dans le paysage. Ça aussi, c'est quelque chose qui influence, donc c'est lié aussi à la Révolution française et à un rapport différent à la nature. On n'est plus sujet de Dieu, on est soi-même capable aussi de s'inspirer, de dialoguer avec la nature. Alors, Jean-Jacques Rousseau, il y a Herboristerie aussi, mais vous avez aussi les rêveries. Et les carnets de voyage ici de ce peintre sont mis, alors ils ne sont pas forcément chronologiques, ce sont des vues, ce sont des scènes, ce sont des surprises, alors parfois des villes, parfois des paysages. Parfois, ici, je pense que c'est la Villa d'Este, parfois des choses, on va dire, spectaculaires, comme évidemment les montagnes, mais aussi parfois des paysages beaucoup plus simples. Et puis, vous avez justement l'idée que la peinture, c'est plus la grande œuvre, c'est plus le chef-d'œuvre qu'on fait, puisque ce sont presque des prises de notes, presque comme un carnet, mais cette fois-ci mis en scène ensemble. Alors, par contre, je ne sais pas où on peut voir ces œuvres-là. Et voilà encore, donc C'est quelque chose de magnifique, hein, comme mise en scène. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on va retrouver finalement ce type de présentation chez d'autres artistes. C'est presque un genre de présentation des petits formats. Et alors, c'est savant, hein, parce que si vous regardez bien, ils ont des formats différents, mais pour les mettre tous ensemble avec des effets de symétrie, mais pas que, hein, parce qu'il y a, c'est intéressant. Alors, à la différence du carnet, qui est chronologique, qui correspond à un chemin, parce qu'on tourne les pages après page comme, si vous voulez, des étapes de chemin, c'est linéaire. Là, vous avez tout ensemble. Donc, il n'y a pas de logique. On peut retourner en arrière, on peut, etc. Et puis, c'est aussi le souvenir. Et on verra que le souvenir a de l'importance sur le paysage. Et voilà aussi, hein, Louise-Joséphine Sarrazin de Belmont, là aussi, une femme artiste peu connue, vue des Pyrénées. Même principe, même type de présentation. Et une paysagiste, alors très peu reconnue, sans doute connue à l'époque, je ne connais pas assez, qui a vécu longtemps, mais comme vous le savez, beaucoup de femmes artistes bon, étaient un peu minorisées, marginalisées, etc. Alors là, il y a une dimension, on va dire, spectaculaire de traverser les Alpes. On peut imaginer qu'elle l'a fait d'abord à pied aussi, mais elle ne cherche pas forcément la dramatisation avec le soleil, la lumière, etc. C'est vraiment plus les romantiques. Il y a un romantisme du paysage avec Caspar David Friedrich, avec Turner, surtout chez les étrangers. En France, le paysage est moins vu comme un lieu romantique. Les romantiques français seront plutôt des romantiques de l'action, de la croix, de Géricault, c'est parce que il y a cette idée avec le romantisme qu'on peut transformer les choses. On n'est pas bien sur Terre, mais on peut les transformer par l'action, notamment l'action révolutionnaire, la liberté guidant le peuple, etc. Vous avez donc cette idée-là. Alors que les Anglais ou les Allemands vont avoir par rapport au paysage, parce qu'eux, ils ne réussissent pas à transformer la société. Il n'y a pas de révolution en Allemagne ni en Angleterre, au contraire. C'est très... Donc, si vous voulez, le rêve d'un ailleurs, il va passer aussi par le paysage. Les soleils couchants, les lointains, la puissance, etc. Mais alors qu'en France, le paysage a une autre valeur. C'est justement peut-être un peu tourner le dos, être rassurant, être serein. Et ça, c'est assez clair avec les deux précédents. Alors, c'est pas grand, parce que justement, je parle de carnet de voyage, parce que l'ensemble fait peut-être à peine 1 mètre. Hein, donc, ça correspond aussi, j'aurais dû le préciser, quand je parlais de carnet de voyage, à un peu des petites études, ce que faisaient certains artistes auparavant. Alors, on dit, et c'est vrai que c'est au 19e siècle que ça va se faire, mais peut-être pas tout de suite dans les précédents, c'est que vous avez aussi l'invention des tubes, hein, de peinture, on connaît l'histoire, les tubes de peinture qui permettent de peindre aussi sur le motif. Alors parfois, certains artistes faisaient des aquarelles dans les carnets de voyage, puis après en atelier, ils reprenaient à la peinture. Et puis progressivement, ils vont trimballer leurs tubes de peinture dans la nature, notamment Turner, Courbet, etc., et Coromiers, etc. Ça aura beaucoup d'importance. Alors, vous avez, c'est toujours la génération qui est née au 19e siècle, et justement, études hein, d'arbres. Vous avez donc de Augustin Fantin, donc on est vraiment au tout début du 19e siècle, et déjà là, vous avez Fontainebleau, la forêt de Fontainebleau. Et la forêt de Fontainebleau, elle est remarquable parce que, enfin, je pense que vous connaissez, vous avez des grands dénivelés, les gorges d'Apremont, les gorges de Franchard. Vous avez aussi, elle est extrêmement variée, elle est gigantesque, hein, jusqu'à 20 000 hectares, depuis quasiment Barbizon jusqu'à Larchamps, hein, jusqu'à Nemours. À Larchamps, vous avez les rochers de la Dame Jeanne qui sont monumentaux, etc. Vous avez les parcours. Et c'est donc, vous avez des différents points de vue, vous avez des essences extrêmement variées. Vous aviez déjà à l'époque, alors vous n'aviez pas les sentiers, mais vous aviez des allées quand même de chasse, hein, des allées de chasse. Et vous aviez une grande activité, alors, qui justement posait un problème, de carrier et aussi de pâture de moutons. Hein. Donc vous aviez ça, notamment, et des charbonniers, charbon de bois, etc. Donc c'était une forêt qui avait des ressources, on va dire, industrielles, économiques, mais qui était aussi déjà un lieu alors, de chasse. Et certains artistes la voient comme un lieu pittoresque, un lieu pittoresque, c'est-à-dire qui mérite d'être peint. Alors, on est dans l'art du paysage, et d'ailleurs, vous avez ici le peintre qui peint un peintre dans les forêts, dans la forêt. Alors, tout petit, hein, une question d'échelle, mais on voit l'intérêt aussi des rochers de Fontainebleau. Alors, moi, j'habite quasiment dedans. c'est que les rochers, les grès peuvent être modelés de façon extrêmement variée. Parfois, vous avez des failles très dures, et même dans les usures et l'érosion, vous avez des érosions de nature extrêmement diverses. Et les essences changent énormément. Alors, à partir de là, on va regarder beaucoup la forêt. Donc, je vais peut-être me répéter un petit peu.
Il est excellent ce peintre.
Ah ben, il est excellent.
Vraiment,
Oui.
quand on voit ce qu'il fait, comment il fait les rochers,
Ah oui.
les arbres, les
Oui.
profondeurs.
Parce que, alors, vous allez en voir plusieurs qui ne sont pas connus. Et justement, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Il y a évidemment les connus, mais on va vous faire découvrir. Alors, à la fin, on va dire, c'est difficile de trouver un style. Quand justement, on ne veut pas faire d'effet, quand on veut être un peu naturaliste. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est la boîte de peinture, ben, de Corot. Et on retrouve ce même principe aussi dans la boîte de peinture de petites vignettes. Et quelque chose aussi qui montre que la peinture, elle devient modeste. Ce n'est pas le grand sujet gigantesque qu'on va imposer au salon. C'est presque un art de vivre que d'aller peindre, d'aller prendre sur le motif, de se souvenir de lieux, de saisir des impressions à un moment donné et d'être fidèle, presque sans sujet. Alors, Corot est aussi un peintre de personnages, mais que je peins bien. Et là, vous voyez justement la boîte qu'on peut transporter aussi. Ça, c'est quelque chose avec le chevalet pliable. La boîte qu'on peut transporter, il y a aussi des inventions techniques qui le permettent. Donc la technique permet aussi de se détourner de la technique qui est en train d'envahir le monde. Alors Corot, c'est vraiment aussi le grand personnage. Il fait partie de cette génération. Il a vécu assez âgé pour l'époque et c'est la personne de référence parce que non seulement, vous voyez, Edgar Degas, hein, les impressionnistes qui disent, il est toujours le plus grand, il a tout anticipé et Monet, il y a un seul maître, Corot. Nous ne sommes rien en comparaison. Bon, rien. Vous voyez, après, c'est sans compter qu'il a été extrêmement bienveillant pour les jeunes peintres. Il a lancé plusieurs écoles partout où il passait. Il retrouvait des jeunes peintres, alors pas uniquement à Barbizon, mais y compris dans le sud de la France, dans le nord de la France, en Charente, du côté du bassin d'Arcachon, je crois. Partout où il allait, parce qu'il a parcouru la France et l'Italie, eh bien, il regroupait autour de lui un certain nombre de jeunes artistes qu'il boostait un petit peu et à qui il proposait son point de vue justement de cette espèce de simplicité, de ressourcement dans le paysage. Donc extrêmement reconnu, alors lui reconnu vraiment aussi par les jeunes et par ceux qui l'ont suivi. Alors pourquoi Corot particulièrement? Alors j'avais fait, vous en souvenez, un cours sur Corot précisément, donc je redirai peut-être un petit peu, alors j'ai un peu trié autour de Barbizon quand même. Alors, c'est lui, hein. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'idée qu'il y a presque tout dans la forêt de Fontainebleau. C'est que, alors même s'il a voyagé jusqu'en Italie, etc., il trouve à peu près des ressources pour tout. Avec, chez Corot, il y avait, on peut dire, deux attitudes. Il y avait celle du chemin, vous vous souvenez, j'avais dit le cheminement de Corot, cette idée de cheminer, alors qui correspond aussi au voyage, seul dans la nature, jusqu'à trouver, par surprise, quelque chose, un site, une masse, une lumière, un moment qui mérita d'être peint. Et vous avez au contraire aussi parfois l'aboutissement du chemin, c'est quand même quand on arrive devant une scène, et là on s'arrête et on contemple. Et donc parfois il suggère de prolonger le chemin et parfois au contraire de s'arrêter et tout d'un coup de prendre une distance pour prendre le temps de regarder. Alors on trouve là, si vous voulez, on trouve un peu la rive, le chemin, et on trouve là un peu la clairière devant laquelle on s'arrête. Là où Corot, et c'est là où cette idée du chemin est intéressante, c'est que ces artistes-là, eh bien, comme leur peinture est modeste, ils ne cherchent pas forcément à l'achever, entre guillemets. Si vous avez quelque chose qui arrive, c'est la notion un peu d'inachèvement ou de croquis, de l'étude. Jusqu'à présent, vous aviez l'étude, l'artiste fait une étude, et ensuite, on la fignole, et on fait un grand tableau pour le salon, pour l'exposer. Et on montre tout son savoir-faire. Mais d'abord, si votre sujet, ben, c'est le chemin, c'est modeste, si ensuite vous êtes dans des conditions plus précaires, si ensuite vous voulez saisir l'instant, eh bien, on ne va pas forcément aller dans le détail. Et donc, vous avez le flou, vous avez les maths, vous avez des sensations comme ça. Et Corot, c'est aussi un artiste qui, donc, dans ses peintures, d'ailleurs, si vous voulez, on le voit là. C'est que là, c'est ce qu'on a. Alors, on appelait ça des pochades. Mais en fait, on se rend compte que pour saisir l'instant, pour saisir la lumière juste, en trois coups de couleur, en trois coups de pinceau, ben, faut exercer son œil. C'est vraiment très vif, quoi, si vous voulez. Et ça, ces artistes-là, comme Corot, se rendent compte que, eh bien, ces pochades, elles ont une présence réelle. Et la peinture que l'on voit, Parce que la tradition de la peinture, c'est de faire oublier de la peinture. C'est-à-dire oublier que c'était de la matière. Que ça soit transparent, que ça soit lisse, qu'il n'y ait pas de traces de pinceau. Sauf des gens, justement, j'en ai parlé, comme Titien, Gréco, Goya, ils ne sont pas beaucoup, hein, à avoir laissé la trace ou des parfums. Fragonard. Fragonard qui va aussi laisser la trace de son geste. Sinon, vous avez l'idée que la peinture, elle fait oublier la matière. Toujours l'idée que la lumière, l'esprit est supérieur à la matière. Et là, vous avez, avec l'idée aussi de la nature, vous avez cette idée que la nature brute, on va dire, qui n'est pas travaillée, parce que là aussi, c'est un paysage qui n'est pas travaillé. C'est un paysage naturel. Ce ne sont pas des champs, ce ne sont pas des paysages à la française. N'oubliez pas qu'on sort du jardin à la française. Où justement, il fallait aussi dominer par la géométrie une nature qui, sinon, elle est cracra. C'est fait pour voilà, les bouseux, etc. Mais en vrai, c'est un mépris. Là, au contraire, bah, vous avez une nature première. Et Corot et les autres, mais beaucoup Corot, là, ils peignent alors des scènes. Là, c'est vraiment à Fontainebleau. Et là, il n'y a pas de chemin. Au contraire, il y a les masses de rochers. Il se met devant. Et là aussi, autre chemin pictural fait par Corot, c'est que il peint des surfaces. Il peint plus des profondeurs. Alors, les rochers, ben, c'est des surfaces. Souvent des surfaces. Il y a des volumes, mais vous avez des surfaces. Et là, vous avez un peintre qui peint non plus avec la perspective le lointain, mais il peint des masses, il peint des surfaces. Et vous voyez bien qu'on voit la trace de son pinceau. Ça s'appelle une peinture un peu synthétique. Ce que l'on voit d'ailleurs, ce qui est assez marrant quand on regarde les lieux peints par Corot et les autres, c'est qu'il y a beaucoup moins d'arbres à l'époque dans la forêt de Fontainebleau qu'il y en a maintenant. Surtout dans les rochers et dans les platières, si vous connaissez. Hein? J'y reviendrai. Et vous voyez par exemple ici, alors, on les a précisément, ce que je dis, la frontalité aussi de la carrière. Alors justement, vous avez les carrières qui vont proposer aussi parfois aux artistes, parce que c'est, alors là, c'est un paradoxe, c'est une activité humaine, mais qui fait des flancs de coupe, comme ça, vous en avez quelques-uns dans la forêt de Fontainebleau, qui sont exploités, et puis qui font casser les roches. C'est que du grès, hein. Et ensuite, vous avez donc des formes planes, des murs qui sont intéressants. Ils ne sont pas parfaitement géométriques, donc c'est un dialogue ici qui est intéressant. Mais ça, c'est très original, parce que vous avez le front ici, vous n'avez pas de perspective, vous avez le lointain avec le ciel. Donc là encore, quelque chose de point de vue de Corot est vraiment très intéressant. Et ce que je vous dis sur la surface, vous voyez là, on voit même le grain de la toile, c'est quelque chose qui ne cherche pas le détail. Ne cherche pas non plus à prétendre maîtriser, mais à traduire de façon très juste. Et puis les nuages, l'instant, hein, la saison, évidemment, dans les arbres, vous avez la saison, vous avez l'instant avec les nuages, vous avez la lumière qui passe, donc c'est tout un art. Alors voilà d'autres. Carrière de grès abandonnée, 1850, parce que il faut savoir que justement, alors les carrières de grès, je viens de lire, je n'avais jamais lu Les Mystères de Paris de Gensu. Ça se lit, hein. C'est même passionnant par certains côtés, mais à un moment, on apprend que les carriers avaient une espérance de vie, je crois, de 6 ans. 6 ans dans la carrière, tellement c'était dur et violent, un travail épuisant, la poussière des grès, l'empoisonnement, etc. Transporter les pavés, il en reste parfois, il y a des collines entières de pavés. C'était d'abord épuisant, mais enfin, tous les pavés de Paris, le grès de Fontainebleau a circulé avec la Seine jusqu'à Paris, et beaucoup, il y a eu tout un travail du grès. Donc vous avez cette idée des conditions de travail, mais vous avez aussi, il va y avoir une pétition progressivement, parce que autour de Corot, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'artistes, c'est ce qu'on va voir. Et notamment vers 1850, je ne sais pas exactement la date, vous avez deux personnages qui vont être essentiels pour la préservation de la forêt de Fontainebleau, c'est Georges Sand et Victor Hugo, notamment des écrivains, qui vont faire un texte. D'ailleurs, il a été réédité, le texte de Georges Sand, il est sublime, un petit volume là, sur la forêt de Fontainebleau, en disant, la forêt de Fontainebleau, d'abord, il faut arrêter l'exploitation parce qu'on est en train de la détruire. Les carrières de grès sont en train de détruire des sites naturels. Ces sites naturels, c'est déjà un poumon pour Paris. Donc, on voit déjà l'idée aussi que Paris devient une ville de plus en plus industrielle, enfin, dure, etc. C'est la beauté. C'est beau. Donc, il y a un argument esthétique, un argument écologique, un argument aussi de conditions de travail des grès, dit qu'il faut arrêter. Et vous avez des peintres, dit, vous avez des peintres qui ont déjà, qui montrent la beauté de ce. Et donc, Victor Hugo aussi va signer ça. Donc, vous avez une dimension sociale aussi, esthétique. Et c'est le premier site classé au monde, premier site naturel classé du monde. notamment grâce à George Sand et Victor Hugo, qui sont de la même génération, 1802, 1805, etc. Mais on peut dire que quelqu'un comme Corot et le premier paysagiste de Fontainebleau ont inspiré aussi ces artistes, écrivains, intellectuels. Ils ne sont pas les seuls, il y a une pétition. Et donc, ben, les carrières ont été progressivement abandonnées. Progressivement abandonnées, d'abord parce que, bon, partie de la construction était faite, et puis je ne sais pas où ils sont allés chercher les grès, ou en tout cas, parce que c'était à l'archi, c'était un peu n'importe où. Hein. Alors maintenant, si vous voulez, on ne se rend pas compte, mais il y a des collines dans la forêt de Fontainebleau qui sont des tas de cailloux cassés, des tas de grès, parce que le grès, ici, il est pif, paf, pouf, s'il est trop mou, il n'est pas récupéré, et donc il est abandonné, et les plantes ont repoussé dessus, vous avez des collines quasiment, mais importantes. Hein. Donc on a une idée aussi assez hallucinante des tailleurs de grès. Vous avez aussi des villages qui restent encore, hein, alors ils sont en dehors des sentiers. On trouve des cabanes de carrier qui sont en pierre, hein, des mini-villages dans lesquels ils s'abritaient s'il y avait de l'orage, etc., ou pour tailler leurs outils, ou pour passer la nuit, etc. Donc c'est aussi, alors c'est tout un, il y a tout un trajet, des chemins entiers des carriers. Donc ça valait, il fallait que je vous parle un peu de ça. Donc vous voyez, c'est aussi, il y a aussi une histoire, y compris des rochers. Les rochers sont multimillénaires. Mais il y a des géologues ici, donc ils pourraient nous dire la date. Et on ne sait même pas dater les rochers, le grès. Hein, il peut se défaire et se reconstituer. Donc voilà. Alors Corot, donc, si vous voulez, on est en plein dans l'histoire, y compris de la forêt elle-même, qui se passe à son moment. Et voilà, encore, on voit encore là des gens qui travaillent encore. Hein, leur carrière de chaise Marie
Tu
et.
sais quand même qu'on a ça à Orsay, hein.
Alors.
Ces carrières comme ça.
Ah ben non,
Non.
justement.
Oui, alors c'est dans la vallée, quoi.
Ah oui, alors,
Dans la vallée, il y a
donc,
des
bah,
carrières.
d'ailleurs, c'est ce qu'on
Non, mais sur
appelle.
Orsay, dans toute la vallée, il y en a.
Ah bon, la mer Stampienne,
Parce qu'en
d'ailleurs, c'est
fait,
ça, la mer d'étang.
Yvette a creusé
Ah
dans les
oui.
sables de Fontainebleau, mais en tête des sables de Fontainebleau, il y a une partie calcifiée qui est le grès.
Ah oui.
Et donc, sur le haut, presque en haut,
Oui.
presque au niveau du plateau,
Ah d'accord.
il y a un banc de grès
Ah bon, bon,
qui
bon.
a été attaqué en différents endroits pour servir Paris à travers la voie de
Ok.
chemin de fer.
Oui, ah oui, alors là,
Je la fais courte, hein, mais
oui,
ça se
chemin de fer.
on
Ben,
voit
ça a
ça
peut-être.
partout. La
Ça a peut-être.
carrière de
Alors.
l'approche.
Oui.
La carrière de l'approche. Tout ça fait partie de l'histoire d'Orsay
Ah bon?
et des autres villes autour. Moi, je parle
D'accord.
d'Orsay parce que je suis Orsay. Mais je suis de Bure, de Palaiseau,
Bon, il n'y a plus qu'à aller peindre
donc,
ça.
il y a des associations d'histoire locale qui connaissent très bien tout ça.
D'accord. Parce que moi, je sais que ça va jusqu'à Étampes, quasiment. Le grès, c'est la mer Stampienne, on dit. C'est tout ça, donc, mais je ne savais pas que c'était arrivé jusque-là. On est chauvin. Hein, non, mais il y a aussi, c'est que je n'ai pas vu de peintre aller peindre. Alors, ceci dit,
On veut pas le faire.
si c'est les chemins de fer qui vont douter, c'est un peu après, effectivement. Le
Oui,
moment du
c'est vrai.
développement des chemins de fer, c'est un peu après. Et donc, peut-être qu'il n'y avait plus cette idée aussi de. Voilà. Alors, quand même. Alors Fontainebleau, ce n'est pas que les carrières, hein, parce que vous avez d'ailleurs, on le voit bien, regardez ici. C'est presque des clairières, c'est beaucoup moins dense qu'actuellement. Hein, ces lieux-là sont. Alors, il y a de la pâture, hein, il y a des vaches, il y aura aussi des moutons, etc. Mais on voit au milieu des roches, alors je ne sais pas exactement où est cette mare-là, mais si vous voulez, il y a quelques arbres, mais vous avez aussi des grandes landes et des grands prés qui sont aussi exploités ben, par l'élevage, l'agriculture. Alors, ce qui est intéressant avec Corot, c'est cette idée de contemplation, là aussi avec le chien. Là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de chemin dans Fontainebleau. Il y a les grandes allées de chasse, mais il n'y a pas encore les magnifiques sentiers de Neucourt. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les sentiers de Neucourt, c'est un trésor, presque un trésor national. C'est la même époque aussi, puisque François de Neucourt, c'était un demi-soldat, c'est-à-dire un officier qui avait été licencié parce qu'il était dans l'armée de Bonaparte, Napoléon. Et à la Restauration, donc 1815 et 1830, il a été rayé des cadres. Et donc, il se retrouve à Fontainebleau, mais comme tout officier napoléonien, il savait très bien marcher. Conquête de Russie, ça marchait, il savait le faire. Et donc, il avait aussi des connaissances topographiques, etc. Et il a cartographié la forêt de Fontainebleau. C'est le premier à avoir cartographié. Et en plus, il y a tracé, il y a repéré des sentiers. Parce que maintenant, c'est les sentiers de Neucourt, les sentiers bleus, qui sont absolument exceptionnels parce que. L'idée, justement, c'est de cheminer, de découvrir les endroits les plus beaux de la forêt. Donc, si vous achetez une carte hygiène de la sentier de forêt de Fontainebleau, je sais plus, vous avez les sentiers bleus. En général, ils sont balisés. Ce sont toutes des boucles. Donc, vous avez, et c'est à chaque fois, c'est absolument sublime. Bon, alors, vous avez 30 ans pour les faire tous. Hein. Lui, il a fait ça. Et ils sont entretenus actuellement. Là, je fais un peu le. Vous avez une équipe, je crois que c'est deux, trois personnes, qui sont chacune chargée d'un sentier, de l'entretenir, de mettre les balises. Donc, c'est aussi quelque chose d'associatif qui entretient ce magnifique réseau. Alors, je ne sais pas combien de centaines de kilomètres il y a dans la forêt. Mais ils sont plus intéressants que le GR. Parce que le GR, il faut tracer, c'est grande randonnée. Les sentiers bleus, ils sont parfois, il faut pas mettre les mains, mais dans sur certains, c'est tonique, hein, parce que ça monte et ça descend. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de chemin, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas cette idée-là. Donc on explore, etc. On a des surprises. Et vous avez là le relais, le chien qui s'arrête et qui regarde. Là aussi, c'est beau. Un regard animal aussi. Hein, donc la modestie de Corot, c'est de considérer bah, que le regard du chien il est aussi valable, hein, que le chien il est peut-être plus capable même de percevoir, d'écouter, de sentir ce qu'il y a. Mais vous voyez, c'est toujours de jour, il n'y a pas d'effet de lumière, de soir, etc. Ni même chez Corot, très peu d'automne. Alors qu'en automne, c'est magnifique, mais c'est surtout en été. Alors voilà d'autres, hein. Rocher dans la forêt, vallée de la Saulne, c'est là où il y a l'hippodrome actuellement. Alors là, la vallée de la Saulne, maintenant, tout ça, c'est recouvert d'arbres. Hein. C'est recouvert d'arbres. Et là, vous avez l'hippodrome de la Saulne à Fontainebleau. Alors, j'avance un peu, parce que on va m'arrêter tous. Alors, vous voyez, alors, c'est vraiment un sujet. Il en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Alors, il s'installe à Fontainebleau, à Barbizon notamment. C'est un village rural, où vous avez justement des forestiers et des paysans, des éleveurs et des agriculteurs. Et il s'installe là parce que justement, bah, il peut aller à pied. Vous allez à pied de Barbizon, vous montez dans les rochers et puis vous avez déjà des sites. Il va avoir un atelier qu'on peut visiter encore. Il n'y a pas de peinture, mais il y a l'atelier de Corot. Et autour de lui, comme il avait aussi l'habitude, il y a pas mal de gens qui viennent. Il n'était pas le premier. Il y a pas mal de gens qui viennent s'installer. À Barbizon, vous avez aussi bah, le train quand même qui progressivement, au début, c'est la calèche qui amène jusqu'à Barbizon. Puis ensuite, vous avez le train quand même jusqu'à Melun. Et de Melun, vous avez une calèche. Et plus tard, il y aura un petit tram qui va jusqu'à Barbizon, quand Barbizon va devenir presque trop célèbre. Et c'est quand Barbizon, d'ailleurs, va devenir trop célèbre que certains, comme Corot et d'autres, vont dire, oh là, il y a trop de monde, on va à Bourg-en-Bargeot. On va aller un peu plus loin parce que là, il y a trop de monde. Donc, vous voyez, c'est aussi très local. Mais à partir de Barbizon, vous pouvez faire une multitude de promenades. Et vous avez ben, des gens qui contemplent ici. Donc, voilà. Alors, on verra la deuxième partie de l'art de Corot quand il est plus frotté, plus brossé. Regardez là aussi hein, cette personne qui est en train de lire dans la nature. Hein, là, vous avez cette idée d'un retour, y compris, on va dire, presque culturel. Hein, aller lire dans la nature, c'est quelque chose dans le paysage, c'est associer culture et nature d'une manière tout à fait nouvelle, y compris le rapport du corps à la nature que Courbet va développer, Manet, les impressionnistes plus tard, mais c'est très moderne chez Corot. Alors, vous avez aussi, c'est un témoignage sur justement les activités, hein, parce qu'à chaque fois, on voit bah, des gens qui travaillent là. Alors là, je ne sais pas, ça doit être un gardien d'animaux, puisqu'il y a une sorte de perche ici, ou une gardienne, une gardeuse. Et là, encore, ce qu'on appelle les rochers ou les platières, dans lesquels vous avez notamment ici des arbres plus résistants. Là, des costumes locaux. C'est aussi, avec Corot, vous avez quelqu'un qui s'intéresse bah, à une sorte de. À des gens qui sont dans une vieille tradition. Un peuple paysan qui a été très peu représenté dans l'histoire de la peinture française. Donc, vous avez, ou alors de façon un peu mythifiée. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'il s'intéresse aussi aux vrais. D'ailleurs, il vit parmi eux, il vit avec eux. Vous avez aussi là un peintre qui habite dans son sujet. Et ça va être aussi quelque chose de nouveau. Les artistes, ils étaient dans leur atelier et puis ils se reconstituaient des histoires, mais ils n'étaient pas dans leur sujet. Donc, il peint aussi autour de lui. Alors les gammes, évidemment, sont des gammes aussi qui sont peu spectaculaires, puisque ce sont les gammes de vert, de brun, de gris, qui sont donc très peu contrastées, puisqu'au sens strict, ça j'ai souvent dit, mais je le redis, c'est monotone, c'est le même ton, vert, gris, brun, en gros. Et c'est pour ça que ce qui détonne, souvent, ce sont des touches de couleur jaune, ou le bleu du ciel, ou le rouge, qui eux sont d'une autre tonalité. Et donc, mais c'est justement, on n'est pas dans le spectaculaire. Et ça, c'est assez clair. Et on va voir comment Corot s'en sort parfois au niveau des couleurs. Ben là, par exemple, justement, hein, hop, avec une toute petite touche rouge qui vient, des petites touches rouges qui sont toutes petites, mais qui d'un coup viennent révéler le vert. Alors là, vous avez la dernière touche de Corot, plus tard, vers 1870, beaucoup plus flou, Hein, beaucoup plus floue, beaucoup plus inventive au niveau justement des manières de faire, avec y compris des traces, des traits presque de pinceau, presque du dessin, des touches d'une variété incroyable, et des masses presque frottées, comme on le voit ici pour les arbres, des grands aplats. Là, il jongle avec un savoir-faire prodigieux. Donc Corot, c'est aussi quelqu'un qui a évolué dans sa manière de peindre. Et on peut voir, ça, c'est plutôt la dernière. La première partie de Corot, c'est plutôt assez épais, posé, etc. Mais il a cette touche. Alors, quand je dis dernière partie de sa vie, il a une touche variée. Et je pense que les dates, là, je ne sais pas si elles sont absolument exactes. Mais il a aussi cette touche qui est vraiment, par contre, clairement celle de la fin de sa vie. Hein. Tous ses voyages en Italie, ses vues, c'est plutôt épais, large, etc. Plus il va dans le vert, plus il va dans le gris, etc. Et ses côtés, il va un peu vers de la mélancolie aussi. Hein, et ça, alors, sans être romantique, les derniers Corot seront plus mélancoliques, hein, avec l'âge peut-être, avec c'est ce qu'il appelle les souvenirs. On verra ça plus tard. Et là, vous avez une activité bah, de bûcheron hein, dans la forêt. Mais sa touche peut être aussi très variée comme ici. Frotter. Alors. Hein, c'est ce que, alors là, on est. J'ai pas montré forcément de façon chronologique. Je voulais vous montrer justement d'autres lieux peints par Corot. Il y a Fontainebleau, il y a Barbizon, mais il y a aussi la région parisienne, Marcoussis, on le verra plus tôt, Sèvres. Alors là, on ne sait pas où, etc. Et Chaviers. Alors là, c'est là les chemins de Corot. Hein. Marcoussis encore. Donc il a dû séjourner alors, parce qu'il faisait certainement pas Barbizon, Marcoussis dans la journée parce que ça fait une trotte. Donc il a dû séjourner à Marcoussis. Je ne sais pas combien de temps. À voir, mais c'est-à-dire que le regard sur le paysage, il a exercé jusqu'en Italie et dans toute la France, eh bien, il réalise aussi que dans la région parisienne, vous avez la nature, on peut dire, un peu brute, un peu première de la forêt, même s'il y a encore des traces de carrière, mais vous avez aussi la campagne avec les vaches et la vie des paysans et des paysannes qui méritent d'être peintes. Or, si vous voulez, c'était aussi quelque chose qui n'avait absolument pas du tout voix au chapitre dans l'histoire de la peinture. Si on mettrait des paysans, c'était pour les associer à une mythologie paysanne, avec les satyres, etc. Ou parfois pour se moquer d'eux, ou avec, bon, vous avez eu le nain, avec les paysans quand même, qui avaient traité ça, mais c'était quelque chose qu'on ne peignait pas. Les vaches, on n'était plus dans l'animal mythologique de l'Antiquité, hein, c'était un animal nourricier, etc. Et ça va devenir un sujet, on va le voir avec Rosa Bonheur, Courbet, etc. Donc vous avez aussi, on se retourne vers aussi. Un monde qui est en plein bouleversement, qui est en train aussi d'être changé. Alors, ce n'est pas encore le remembrement, mais ce n'est pas le grand exode rural, mais vous avez quand même le paysage se modifie aussi en région parisienne progressivement. Le train, certaines industries, des activités. Alors, ces artistes-là se détournent très clairement, ben voilà encore souvenir de Marcoussis, se détournent très clairement ben, de la modernité. Vous voyez pas de métal, vous ne voyez pas de grandes architectures, vous ne voyez pas de grands monuments, vous n'avez pas de bâtiments, vous n'avez pas de gare, vous n'avez pas cela, vous n'avez pas de ville. Donc très clairement, vous n'avez pas de foule. Vous avez sans doute, et c'est pour ça aussi dans sa série des souvenirs, est-ce que dans les souvenirs, il évoque un monde fini ou finissant? Est-ce que ces souvenirs, il les a peints en atelier après des croquis? Je vous montrerai les croquis de Corot. C'est possible. Il a tellement fait de peinture d'après nature qu'il est capable, effectivement, de reconstituer un paysage à partir d'un croquis et d'appeler ça souvenir. Alors ça, souvent, c'est toute la série des souvenirs de Corot, c'est plutôt, effectivement, des paysages de la fin de sa vie dans lesquels on a cette touche extraordinaire et des tons un peu plus gris et une lumière un peu moins sereine et un peu moins ocre que dans les précédents. Et on voit, alors là aussi, route à travers les champs, rentrée des foins à Marcoussis, ça donne. Alors, bon, Marcoussis, Barbizon, il y a quand même une petite trotte, mais c'est quand même clairement aussi le sud hein, de Paris, c'est tourner le dos, c'est clair. Alors là, vous voyez sa touche, hein, très inventive. Et on voit de façon discrète le jaune, le rouge, les petites taches bleues qui viennent vraiment presque imperceptiblement comme un épice dans un plat, hein, vraiment relever une tonalité qui sinon serait pourrait justement un peu monotone. Alors, la monotonie et la mélancolie, chez Corot, ça va aussi un peu avec. C'est que, mais il y a ces touches. Alors, ces dessins, justement, je parlais de carnet de voyage. Ben, Corot, justement, a fait alors, ils sont tous disponibles sur Gallica, vous avez des, je crois qu'il y a 800 dessins de Corot. Donc, si vous voulez, on a, et tous ont été numérisés. Et on voit la façon dont il dessine en voyage. Et quand je dis qu'il peut reconstituer, il a tellement d'expérience aussi du paysage, de la lumière, des textures, etc., qu'il est capable, à partir d'un croquis comme cela, de faire un paysage peint cette fois-ci dans son atelier. Alors parfois, il peint sur place, mais aussi parfois dans l'atelier, à partir de croquis qui sont extrêmement synthétiques. Et là, on le voit, c'est-à-dire qu'en trois coups de crayon, il y a les masses, il y a, etc., il y a le rythme, il y a la composition. Alors en voilà d'autres, hein, qui sont. Alors, il peut être aussi tout d'un coup poussé dans le détail, parce qu'il a une formation aussi classique. Et là, tout d'un coup, vous avez à la fois le contour de l'arbre, puis les masses intérieures, des volumes de la ramure, et puis l'apparition des branches, etc., les ombres et lumières, les ombres propres, les ombres portées, les rochers, etc. Donc vous avez aussi quelqu'un qui a une maîtrise extraordinaire, comme on le voit ici. C'est quelqu'un de curieux, hein, et, mais aussi de très libre, parce que ce qui rend libre, c'est que c'est un nouveau sujet. Très peu de gens l'ont fait. Ce n'est pas considéré, il n'y a pas de pression sociale, il n'y a pas de commande. Donc, si vous voulez, l'artiste qui peint ça, Corot, il se sent parfaitement libre. Alors, la liberté, c'est aussi ben, quelque chose qui est nouveau au XIXe siècle, hein, puisque liberté politique, ça sera même un grand enjeu. Mais on voit appliqué à la peinture, c'est aussi ça, c'est je peins ce que je veux, où je veux, comme je veux, etc. Donc, vous avez aussi, on va acquérir une autonomie, c'est vraiment, Corot, il atteint une autonomie totale, y compris même dans le regard. Il peint ce qu'il a envie de voir, il a envie de retenir ce qu'il veut, et il n'y a pas du tout, il n'y a plus d'école. C'est une nouvelle école, c'est pour ça qu'on parle aussi d'école de Barbizon, parce que ça change aussi les critères, ça change aussi le vocabulaire. Donc, si vous voulez, c'est comme si on redéfinissait tout ce qui s'apprenait à l'académie, puisque ça n'a plus rien à voir avec le travail des académies qu'il y avait. Corot, c'est aussi quelqu'un qui va être inventif, mais qui sera prêt, qui est très ouvert. Par exemple, ce sont des clichés verts qu'il va faire avec son ami Daubigny. Et c'est alors, c'est gravé sur. Parce que la photo commence vers 1836-37, hein, on commence à voir les premières photos, des plaques de verre qui sont enduites de gélatine, bromure d'argent, je crois, ce chose, qui est photosensible. Et donc, Corot, avec son ami, fait du dessin à la pointe sur le gel. Et ensuite, c'est exposé à la lumière, etc. Il y a de photosynthèse qui se fait pour qu'il puisse ensuite avoir une sorte de dessin fait sur un cliché photographique, etc. Donc, vous avez aussi une technique qui s'est dit, mais voilà, une gravure différente. Et ensuite, après, même ce cliché vert, on peut le transposer sur papier, puisque vous avez un dessin fait sur plaque photographique. Donc, vous avez là une invention, donc vous pouvez avoir des versions des clichés verts de Corot qui sont faites. Alors, il travaille sans doute. Alors, c'est un peu compliqué, puisqu'il doit travailler, j'imagine, dans le noir, ou je ne sais pas comment il fait. Enfin, c'est, je ne sais pas exactement comment il faisait. J'ai un peu perdu ce que j'avais lu, mais à revoir. Et là, c'est de Corot et Daubigny. Donc, c'est une technique assez remarquable, différente de la gravure, plus légère, qui n'a pas besoin de presse et qui peut jouer aussi sur le contraste. Donc, Corot, très inventif. Alors, Corot, j'ai un peu parlé un peu rapidement de Corot, mais il est essentiel. Alors, autour de lui, on va dire, dans un premier temps, vous avez des gens dont on va voir justement une facture plus classique, oui. Alors, quand même, Corot, c'est qu'il avait, justement, il y a ce qu'il y a, c'est qu'au 19e siècle, que j'ai parlé de la Hollande au précédent, vous avez une bourgeoisie, la preuve, la Révolution française, c'est la bourgeoisie, avec une clientèle qui se développe de plus en plus. Vous avez aussi une diversité religieuse, puis vous avez des protestants, des athées, etc. Vous avez donc l'idée de la peinture religieuse, de la peinture royale, de la peinture d'histoire, etc. C'est quelque chose qui est un peu abattu en brèche. Vous avez donc une clientèle, vous avez des gens qui ont de l'argent, vous avez une bourgeoisie très riche hein, autour de Paris. Vous avez donc, et puis, ce n'est pas forcément très cher aussi, parce que si vous voulez, c'est des petits tableaux, donc ça peut être aussi des classes moyennes. Vous avez donc Corot. Alors, ensuite, c'est des gens, j'ai oublié de le dire, mais il vit à Barbizon. Il n'a pas grand train. Hein, il n'a pas carrosse, palais, grand atelier. Donc, c'est aussi des gens qui sont déjà un peu décroissants, qui, eux, non seulement ils tournent le dos à la modernité parisienne, mais aussi au mode de vie parisien. Et on verra, Millet, c'est encore pire. Donc, ce sont aussi des gens qui sont, de ce point de vue, au niveau de la consommation, sont pas du tout, ils ont leur chevalet, leur peinture, et ils vont à l'auberge Gane, à Barbizon, ils se nourrissent là, et c'est bon. Donc, vous avez aussi cette idée-là de l'artiste, ce n'est pas le prince, etc. C'est vraiment aussi moderne de ce point de vue-là. Alors, Caruel d'Aligny, on voit dans sa peinture, regardez, la manière de peindre, ce n'est pas Corot. Lui, il est formé plus classique, c'est-à-dire le grand paysage qui normalement servait de décor à des scènes de genre ou à des scènes historiques, qui est traité alors avec détail, avec précision, mais c'est quand même les grandes carrières, peut-être d'Orsay ou de Fontainebleau, là, je crois que c'est là, effectivement, je ne sais pas, mais on voit bien une technique différente. Alors là, il se lâche un peu, mais j'ai mis les deux. D'ailleurs, ici, celle-ci, vous avez, elle est sur un petit tableau, celle-ci est sans doute plus grande. Hein, c'est-à-dire que plus le tableau est achevé, on va dire, plus il semble il est sur un grand format. Alors après, il y a peut-être aussi des clients qui disent, tiens, cette petite pochade, je la verrais bien en plus grand. Donc l'artiste va reprendre son étude et la faire plus grande. Il faudrait que j'aie toutes les tailles toujours, ce que je n'ai pas, parce que je fouille et je trouve des choses. Alors toujours Caruel d'Aligny, alors assez vite finalement, il se fait à la Corot, c'est-à-dire qu'il se libère un petit peu aussi de la manière, on va dire, plus académique de traiter les surfaces et les volumes, et le voilà encore qui va traiter les mêmes sujets. Alors pourquoi est-ce que c'est presque toujours en été ou au printemps? Je ne sais pas. Parce que l'automne, c'est pourtant magnifique, le printemps aussi. Est-ce que c'est une question d'être dehors, hein? Dehors en plein air, ils ont trop froid. Ou pour la peinture à l'huile, ça ne sèche pas assez. Parce qu'il faut quand même, si vous traitez la peinture à l'huile dehors et qu'elle ne sèche pas, bah vous avez de la poussière qui peut se mettre dessus. Donc, il y a peut-être cette idée-là. Et encore, on va retrouver les rochers et toujours aussi une végétation assez rare. Alors, Jules Coigné est peu connu, si ce n'est pour cette peinture qui est sans doute une des plus belles, qui a servi de couverture à un livre sur l'école de Barbizon et qui est alors remarquable au niveau de la composition, des taches de couleur, de la manière de peindre, de la virtuosité des touches, etc. Il est tout petit, c'est un tableau qui est tout petit, hein, et déjà très, très, en même temps, très fignolé, on va dire, très précis. Et puis, il est intéressant parce qu'on voit effectivement ben, les peintres à l'œuvre avec leur parasol, leur chevalet portatif, des promeneurs. Alors, les promeneurs de la forêt, parce que vous avez encore à cette période ceux qui travaillent et ceux qui se promènent. Vous avez ce qu'on appelle les premiers touristes. Et d'ailleurs, le Touring Club existe déjà, mais ce n'est pas les voitures. Et vous avez les fontaines du Touring Club que vous voyez au-dessus de Fontainebleau. Hein, vous avez la balade des fontaines. J'aimais bien faire. Alors maintenant, les hêtres sont un peu abîmés, donc il y a beaucoup de hêtres, mais en réchauffement climatique, là, les hêtres sont menacés. Mais vous avez plusieurs fontaines qui ont été construites dans ces années-là. Et alors, avec des pierres, etc., des très belles fontaines. Et rien que sur ce parcours des fontaines, il y en a 5 à peu près. Et vous aviez aussi donc les touring clubs, et vous aviez aussi ce qu'on appelait les sylvains. Dans plusieurs endroits de la forêt, vous avez les sylvains, avec, c'était les poètes ou des écrivains qui défendaient la forêt. Donc autour de Georges Sand et Victor Hugo et d'autres, vous aviez donc qui ont consacré leur vie à la forêt. Et vous avez même des portraits en métal, on dirait presque Marx, Engels, Lénine, c'est le 19e siècle, qui sont dans des grottes, et des profils de sylvains, poètes, etc., qui ont défendu et promu la forêt de Fontainebleau. Vous avez, dans la forêt de Fontainebleau, vous avez progressivement les activités industrieuses vont laisser le pas à des activités d'un tourisme presque écologique, poétique, artistique, et qui va progressivement prendre le pas. Et tous ces lieux un peu déserts de carrière, des charrettes, des exploitations, vont disparaître et être reconquis par la verdure, etc. Alors donc voilà Jules Coigné. Alors c'est intéressant au niveau de l'histoire de la forêt. Voilà toujours Coigné, et on voit bien, hein, alors ça on ne voit presque plus, hein, dans la forêt, des très grandes plaines. Hein, vous avez donc, c'était, quand on dit Fontainebleau, ce n'était pas que Fontainebleau. Vous aviez aussi en fait les grands prés et les pâtures et les gardières de moutons. Et encore des activités qu'il n'y a quasiment plus. Alors, vous avez quelque chose aussi, c'est que vous avez le paysage, mais vous avez aussi l'intérieur. On avait déjà vu dans le premier artiste, dont j'ai déjà oublié le nom, Jules Coigné, les arbres. L'arbre comme un sujet. L'arbre presque comme un être, pas un être, voilà. L'arbre, mais comme un être vivant, comme une entité, et qui est vu aussi comme un témoignage. Alors, on sait très bien aussi émouvant, parce que les arbres, surtout à cette époque-là, vous aviez encore des chênes d'êtres centenaires, voire multicentenaires. Il y en a encore quelques-uns, et on essaie de les préserver, mais c'est aussi cette idée aussi du temple, un véritable monument. Donc, à l'époque où on est dans l'histoire, la culture, le monument fait par les humains, vous avez des monuments de la nature. Donc, vous avez aussi les roches qui sont presque comme des monuments, presque comme des architectures. D'ailleurs, quand on est dans la forêt de Fontainebleau, on a parfois l'impression d'être devant des constructions. Vous avez des canyons presque, des gorges, etc., des défilés dans les monnaies. Ils sont en plus parfois beaucoup plus beaux que des constructions humaines. La nature avec un hasard des érosions. Et puis vous avez ces monuments de la nature que sont les arbres et qui, même morts comme ceux-ci, sont toujours magnifiques. Donc, non seulement c'est une ressource, mais c'est aussi ce sont aussi des présences vivantes avec des temporalités différentes. Donc comme une sorte, et on retrouve ce qui fait l'art du jardin, c'est-à-dire le minéral, le végétal, et puis l'instantané aussi, le ciel, hein, ou alors dans certains jardins c'est l'eau, mais vous avez différentes temporalités, les végétaux, c'est presque la vie comparable aux humains, et les pierres, alors là c'est antédiluvien. Alors voilà le massif des Trois Pignons, qui est près justement de Milly-la-Forêt, qui est entièrement actuellement recouvert d'arbres, hein, et ça aussi ce sont des témoignages intéressants. Alors des goffes, peu connu, mais c'est. Alors, à l'école de Barbizon, une fois que c'est lancé, une fois que c'est installé, vous avez, par exemple, à l'auberge de Gannes, vous avez la liste de tous les artistes qui sont passés. Vous avez non seulement des artistes français, mais des artistes du monde entier qui vont venir. C'est-à-dire que l'impact de Corot, de cet art du paysage, est fantastique. C'est même assez surprenant, parce que ça correspond aussi à une mentalité qui se développe, de découvrir la nature autrement. Quelque chose qu'on voit dans d'autres pays, parce que la révolution industrielle, elle a lieu quasiment dans toute l'Europe. Et vous avez aussi peu de forêts, et puis en plus, bah, ils s'échangent, et une bonne partie loge à l'auberge Gannes, qui est donc dans la rue principale de Barbizon, qui est maintenant transformée en petit musée de l'école de Barbizon, qui est absolument remarquable. Et les artistes, en plus, ont laissé leurs traces sur les meubles. Ils ont peint les meubles. Donc c'est assez drôle sur les murs, sur les meubles. Et on voit, ce sont des artistes qu'on appelle un peu à l'époque les rapins. Ce n'est pas les grands artistes des ateliers académiques de Paris. C'est un peu des bohèmes qui aiment bien rire, qui aiment bien chanter, qui aiment bien boire, etc. Et qui vivent là pour 3 sous. Et puis qui sont logés presque dans une sorte de, presque une colonie. Hein, ils vivent dans un dortoir et ils vont le matin, ils vont tous se peindre dans la forêt ou dans la campagne, etc. Donc vous avez un phénomène culturel qui est vraiment répandu. Donc vous avez, je sais pas, mais des centaines d'artistes qui passent là. Et ensuite, comme je vous dis, il y aura même presque un trajet exprès de diligence. Et plus tard, je ne sais plus, vers 60 à peu près, il y aura même une sorte de ligne de chemin de fer qui fera Melun-Barbizon, pour amener les peintres, et il va y avoir aussi des touristes qui viennent voir les peintres. Alors là, tout d'un coup, sur tourisme, c'est pour ça que je dis que ça va. Là, ça commence à poser des problèmes. Hein. Donc, c'est un véritable phénomène. Et alors voilà, des Goffs. Alors, il y a des peintures splendides aussi. Alors lui, c'est un des rares à avoir joué sur le coucher de soleil, etc. Combiner chemin, arbre, avec des arbres différents ici. Donc, les points de vue sont infinis. Ils sont tellement infinis que on ne sait pas comment. Et un peu l'intention de tout noter. Et alors, voilà un autre que je ne connaissais pas, l'Apito, un nom très intéressant. Alors, vous voyez que j'ai fait exprès de mettre les deux, vous voyez que souvent, il y a deux pôles, on va dire, dans la forêt, soit les carrières et les rochers, qui sont stupéfiants. Alors, ça, c'est des rochers de carrière, on va dire, ce n'est pas les rochers d'érosion. Soit vous avez les arbres solitaires, des grandes présences, qui sont aussi magnifiques, comme on le voit ici. Rochers et chênes, presque tous les artistes font, c'est un petit peu les deux extrêmes, hein, qui aussi accrochent la lumière de façon spécifique. Alors évidemment, on lumière, et on voit encore des petits personnages qui eux, vivent dans la forêt. Alors, Narcisse Diaz de la Peña, c'est un des plus connus, donc justement d'origine espagnole, évidemment. Alors, la difficulté, justement, c'est là. Ils sont très nombreux. La forêt, c'est toujours le même sujet. C'est à peu près les mêmes paysages, malgré tout, même si chacun réussit à trouver parfois un angle, une lumière, une route, un massif rocheux particulier ou des formes de rochers particulières. Il y a un moment où c'est difficile de se distinguer. Ils sont tous formés à l'école classique. En fait, tous étaient dans les académies, malgré tout. Donc, ils essayent de se défaire, mais ils n'ont pas l'audace Ils n'ont pas tous l'audace d'un Corot et plus tard des impressionnistes pour lâcher, on va dire, la peinture figurative. Et donc, comment se distinguer quand on fait presque toujours? Alors, parfois, certains vont se distinguer, par exemple, par la lumière, un type de lumière, par l'IAS de la Peña, ça sera surtout les frondaisons. Ça sera quelque chose de moins lumineux. Ça sera plutôt les sous-bois. Et avec une peinture ici aussi, avec par contre, un style de touche qui va être un peu spécifique. Alors ça aussi c'est intéressant parce qu'on voit les artistes modifier progressivement leurs touches. Plus tard évidemment ça sera les impressionnistes pour se distinguer aussi les uns des autres puisque les sujets sont les mêmes et ce ne sont pas des sujets littéraires. Donc vous avez cette idée intéressante, c'est que progressivement s'invente une peinture aussi vraiment donc picturale, c'est-à-dire qui va traiter la touche ou les harmonies colorées et avec des ambiances comme on le voit ici. Un Diaz de la Peña, c'est un peu plus sombre. On le voit ici, alors cette fois-ci, un effet d'orage avec quelqu'un qui est en train de rentrer, une femme qui rentre peut-être du bois mort, etc., avant la pluie. Et là, cette fois-ci, des feuilles un peu d'automne. Donc, alors là aussi, hein, Diaz de la Peña tire un peu, essaie de se distinguer de ses camarades. Les Gorges d'Apremont, je ne sais pas si vous connaissez, c'est. Même on s'y perd, même avec les sentiers bleus. Hein, il y a à peu près trois boucles différentes. Chaque boucle fait à peu près 2-3 heures. Si vous faites les trois, vous avez pour 7-8 heures facilement. Hein. Donc, rien que pour juste les gorges d'Apremont. Donc, vous imaginez sur les 22 000 hectares. Et voilà. Alors, vous voyez, même si là, il n'y a pas de ramure, il y a quand même cette touche. Donc, il se distingue par une touche spécifique. Alors, quand même, on est en 71. En 71, déjà, les impressionnistes commençaient à pousser du nez. Hein. C'est qu'il y a aussi cette idée-là, mais les impressionnistes sont, Monet l'a dit, les enfants de Corot, hein, sont les enfants de l'école de Barbizon. Ils ont pu aller aussi loin dans le travail sur la touche et la nature et la campagne et ce regard un peu de la contemplation et de l'instant, grâce justement à ses prédécesseurs. Pour Peña, c'est 1807. Qu'est-ce que les Courbet, c'est 1819, et Morisot, Manet, c'est 1840. Donc, vous voyez, c'est quand même une génération après. Donc, on voit qu'ils inaugurent. Mais si vous regardez bien là, vous avez avec la Peña un art de la touche assez remarquable. C'est que du flou aussi. C'est cette idée qu'on n'est pas non plus dans la maîtrise absolue. On n'est pas dans le contrôle. On se laisse aller et on fait confiance aussi à ses sensations. Là aussi, on n'est pas dans quelque chose de descriptif. On est dans une sensation qui plus tard donnera les impressions. Alors toujours la Peña, donc voilà quelques-uns. Alors lui, il essaie d'avoir aussi des lieux un peu originaux, hein, comme on voit ici avec cette fois-ci une grande platière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le platière, c'est au-dessus des gorges des grands plateaux de grès, où là ce ne sont plus les mêmes herbes, vous avez des herbes, vous avez parfois des mares, vous n'avez pas tout à fait les mêmes plantes. Et souvent quand vous êtes dans les platières, vous avez des gorges et vous voyez très très loin parce que vous êtes en hauteur. Donc, vous avez aussi des sites qui sont remarquables. Et vous avez aussi quelque chose qui est beau, c'est des chemins en sable. Je ne sais pas si vous y allez, je vous incite. C'est parfois, vous êtes dans du sable blanc, un des plus purs sables qui existent. Et c'est pour ça qu'il y a aussi toute l'industrie du verre dans le sud de Fontainebleau, vers le loin. Vous avez Corning, vous avez Carglass, vers Nemours, vous avez toute la vallée du Loing. Il exploite aussi le sable absolument pur de la forêt. Donc, il y a ça aussi, la blancheur, qui fait que vous avez une lumière différente, c'est que souvent le sol n'est pas terreux, il est blanc, hein, dans certains endroits. Donc, au niveau de la lumière, c'est exceptionnel. Alors, vous avez Bascassat, que je connaissais peu. Hein, là encore, vous avez les rochers, les chemins et l'arbre solitaire avec, vous avez vu, l'échelle. Alors lui, il est surtout sculpteur animalier. Donc vous avez aussi pas mal d'artistes qui viennent, qui ne sont pas spécialistes du paysage, mais qui viennent un peu comme un exercice, voir comment est-ce qu'ils peuvent. Fontainebleau devient très célèbre, Barbizon devient très célèbre. Et c'est pour ça aussi beaucoup passent pour se coltiner un peu la forêt de Fontainebleau et cette école de la nature. Parce que c'est comme ça que c'est conçu. Constant Dutilleux, lui aussi, alors assez proche de Corot, avec une lumière, une touche plus légère. Là, regardez la brillance exceptionnelle de la lumière avec filtrée à travers la touche des jeunes feuilles, etc. Des petits personnages. Ils ont compris la leçon de Corot, donc des petites touches jaunes et des petites touches bleues. Pour ici, la petite touche rouge, hein, qui vient tout d'un coup faire un petit rappel. Et puis, les sous-bois, comme on le voit ici. Théodore Rousseau, alors lui aussi, un des plus connus. Alors lui, c'est le peintre des arbres, vraiment. Il y a eu une exposition que je n'ai pas vue récemment sur Rousseau. Hein, et lui, un peu comme Diaz de la Peña, sera un peintre beaucoup, justement, des arbres très fournis, des arbres de la fin de l'été, souvent très, très denses, jusque parfois atténuer la lumière, comme on le voit ici. Alors là, c'est la lumière du jour qui s'atténue, mais je voulais vous montrer surtout ceci, où vous avez l'arbre et la ramure prend presque toute la lumière et presque étouffant, hein, comme un monde. Alors, il y a aussi ça qui est quelque chose, on va dire, c'est pas romantique, mais il y a quand même une dimension mélancolique, c'est que la forêt, ben, c'est un monde plein de mystères. Soit c'est dégagé, etc., mais si vous êtes devant un massif d'arbres extrêmement profond, d'un coup, vous avez la lumière qui s'estompe, vous avez aussi un monde à part, un monde de nature à part, un monde qui échappe aux humains et qui est aussi plein d'un ressourcement, on va dire, essentiel sur la profondeur de la nature. Et Rousseau, alors là aussi, on n'est pas une contemplation du spectacle, mais cette idée de quelque chose qui nous semble presque inaccessible. Et regardez même jusqu'à cette peinture qui, alors, il a peint et ça a bitumé, comme on dit. C'est que la peinture a noirci. Et là, vous avez même une allée tellement couverte qu'il n'y a quasiment plus de lumière. Donc, Rousseau est un artiste aussi singulier dans le genre. Alors, je vais quitter la forêt de Fontainebleau dans un premier temps. On y retournera avec, on va dire, la deuxième version de l'école de Fontainebleau, plus récente, avec d'autres artistes. Je vous ai montré parmi les plus connus. Alors maintenant, à Barbizon, il y a aussi quelque chose qui est différent. C'est que Barbizon, c'est à la frontière, vraiment, entre la plaine rurale et la forêt. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Vous avez quelqu'un comme Jean-François Laure. Il paraît qu'on dit Millet. Moi, je dis toujours Millet, mais on va dire Millet. Lui, il est originaire de la région de Cherbourg, du Cotentin, du Nord-Cotentin, d'un milieu paysan, rural. C'est le curé du coin à l'école qui voit qu'il dessine bien. Qui dessine même très très bien, qui dit oh, il faudrait qu'il aille à l'école des beaux-arts de Cherbourg. Il va à l'école des beaux-arts de Cherbourg, oula, il va faire carrière à Paris, etc. Mais Millet, provincial, normand, cotentin, etc., Paris, ça ne lui convient pas du tout. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Lui, il aime peindre ce qu'il connaît, ce qu'il y a autour de lui. Il ne connaît rien à Paris, il ne connaît pas le milieu parisien, il connaît pas, il n'a pas envie de faire des histoires différentes, d'histoires ni religieuses, ni mythologiques, ni des portraits. Et donc, lui qui était un très bon peintre de rivage, il décide d'aller s'installer à Barbizon. Lui aussi. Donc, si vous voulez, vous avez deux pôles à Barbizon qui vont être à peu près en même temps. Vous allez avoir Corot, vous avez Millet. Et Millet, lui, ce n'est pas la forêt qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la vie des gens, la vie des paysans. Et les paysages qui sont des paysages, alors là, cette fois-ci, c'est une nature qu'on travaille cette fois-ci. Ce n'est pas la nature naturante, un peu originale et originelle de la forêt. Avec les résidus de carrière. C'est au contraire le paysage, c'est une plaine, hein, la plaine de Barbizon et de Chaillambière. Il n'y a rien, mais il y a une lumière très particulière. Et puis il y a ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, pour lui, c'est des anonymes. Et il les monumentalise. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, c'est un des premiers à peindre les travailleurs de la terre, mais vraiment, sans portrait, parce que d'ailleurs, on voit presque pas les visages, donc il peint presque une fonction sociale. Avec une certaine ambiguïté. Par exemple, on sait que Baudelaire va détester cette peinture. Parce qu'il dit, oh, il veut nous faire pitié, il veut nous faire larmoyer, c'est le larmoyage. Baudelaire étant très urbain, dandy, etc. Non. Lui, la campagne, et puis les pauvres paysans, ça l'intéresse pas. Et il trouve que Millet veut faire pleurer dans les chaumières, nous émouvoir devant le sort de Pouc, en gros. Donc, et en plus que c'est presque chrétien. Et aussi, pour certains, Millet va passer pour socialiste. On est après 1830, 48, etc. C'est déjà ces idées-là. Et il va être considéré comme quelqu'un qui veut défendre les travailleurs, les paysans, la souffrance au travail. Il s'en fiche dans les milieux parisiens. Donc, les salons parisiens s'intéressent très peu à la peinture de Millet. Les paysages vont intéresser certains, parce que bon, c'est quand même aussi un souvenir de ce qu'ils ont connu, la nature. Mais les gens qui travaillent, ça intéresse peu. Et Millet, d'ailleurs, aura beaucoup moins de succès financier que Corot. Mais Millet réussit à montrer que des paysages qui n'en sont pas, en fait, c'est des plaines. Ce sont alors cette fois-ci des œuvres créées par les humains, des meules de foin, des moutons avec les gardiennes de moutons. Ça peut être beau à regarder. Alors vous avez aussi une dimension sociologique que déjà Chardin avait commencé, un peu Vermeer au début. c'est se dire que finalement, vous pouvez avoir la beauté même dans l'univers du travail. Et là, comme l'art et la beauté au 19e siècle, c'est vraiment un phénomène de distinction, comme dirait Bourdieu, c'est qu'on sait apprécier l'art parce qu'on est éduqué, parce qu'on est de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, parce qu'on a des lettres, etc. Et la beauté, c'est réservé à ceux qui connaissent la beauté. Donc, les beaux salons, la belle architecture, les beaux jardins, les belles tapisseries, etc. Si tout d'un coup, la beauté est accessible au premier des mortels qui travaille dans un champ, ça pose un problème, parce que ça veut dire qu'on n'a plus l'apanage du beau, on n'a plus l'apanage de l'esthétique, on n'a l'apanage du goût, et vous avez une démocratisation non seulement des paysages, c'est que, ah ben zut, à quoi bon autant de dépenses, autant de richesses, si on peut être émerveillé par une meule de foin? Donc vous avez une dimension sociologique qui est très intéressante, y compris au niveau de l'art, c'est qu'est-ce que c'est que justement la beauté? Est-ce que c'est la sophistication culturelle, ou est-ce que c'est parfois la simple capacité à s'émerveiller? Et ce que montre Millet, et là-dessus il est exceptionnel, c'est que mais les paysans même qui travaillent dur, parfois ils sont quand même dans la beauté. Alors là, vous avez un phénomène. Et même, non seulement les paysans, mais les plus pauvres dans le milieu rural, c'est les glaneuses. Parce que les paysans, ils ont un statut, les fermiers ont un statut, là vous avez même sur son cheval, vous avez le majordome, le régisseur. Souvent, les terres sont la propriété de grands nobles. Hein. Et puis, en fait, vous avez les fermiers, puis les fermiers, vous avez les ouvriers agricoles, vous avez ceux qui travaillent, puis vous avez les glaneux, c'est ceux qui vont récupérer les grains qu'on n'a pas ramassés. Vous connaissez l'histoire. Voir les très beaux films d'Agnès Varda sur les glaneuses. Et là, il les monumentalise et il leur donne une dignité extraordinaire. Elles deviennent très grandes, monumentales, sujet principal, dans un geste auguste et presque éternel, avec un balancement exceptionnel, la main au-dessus du sol, la main qui touche le sol et la main qui ramasse, avec les trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune, toujours monumentalisées parce qu'elles sont très grandes. On ne sait pas qui c'est, elles ont des habits pauvres, mais elles ont une dimension éternelle. Elles ont une dimension éternelle. Et au loin, vous avez un paysage qui n'a rien, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'effet de lumière, d'orage, vous n'avez pas d'architecture, etc. Vous n'avez pas de chemin, vous n'avez rien. C'est la plaine du travail. Et pourtant, vous avez une lumière qui est très belle. Et donc ces femmes-là qui sont loin, qui passent derrière tout le monde, il les met au premier plan. Donc vous avez aussi une révolution dans la hiérarchie des personnages. Donc Millet, discrètement, dans son coin, à Barbizon, il se tourne vers ceux qu'il connaît, il vit avec les paysans, hein. Alors lui, il vit pauvrement, parce que comme sa peinture, il vivra même, il a beaucoup d'enfants, sa femme aussi est avec lui, il vit avec lui. Il a tellement peu de succès que plus tard, quand il va mourir, c'est Manet, et avec Corot et d'autres, et aussi il s'appelle Daumier, qui vont se faire une pétition pour qu'il y ait une rente, que l'État achète certaines des peintures, par exemple l'Angélus et d'autres, et qu'ensuite il y ait une rente qui soit donnée à sa femme, tellement elle était dans la misère. Donc, si vous voulez, vous avez ces deux personnages ont été quand même reconnus par des gens qui sont différents d'eux. Mais ils ont une dette, parce que soit sur le rapport à la nature, soit le rapport aussi sociologique, y compris le regard sur le monde, évidemment, et l'Angélus, alors, là où c'est incroyable, c'est que c'est ensuite les deux peintures qui sont parmi les plus connues dans le monde avec la Joconde. Presque dans tout le monde rural du 19e siècle et du 20e siècle qui persiste, va se retrouver dans ces peintures-là. Donc c'est un monde aussi qui disparaît, mais qui existe encore, et qui a une dimension universelle. Donc, de Barbizon, Millet, avec ces deux peintures, enfin, mis dans le sud de la France, il y avait ces deux peintures dans un milieu paysan qui ne connaissait pas la peinture, mais c'était les deux icônes du monde rural, c'est les glaneuses et l'Angélus. Et vous les avez sur les boîtes, et donc c'est un art aussi qui devient populaire, presque malgré Millet, qui lui-même n'aura pas effectivement n'est pas au courant ne sera pas au courant de l'impact de ses œuvres. Alors c'est une peinture d'une religion simple aussi. C'est pas du tout la religion dogmatique du 19e siècle qui s'impose depuis 1815 avec les Saint-Sulpiciens qui font la règle, la morale, etc. Là, c'est une religion, on va dire, presque animiste, hein, de la terre, liée aussi à la nature, le soleil couchant, l'Angélus, etc. Le travail de la terre qui est aussi sanctifié, cette idée que travailler la terre, ce n'est pas juste une fonction, ça peut être aussi relié à quelque chose de presque universel ou spirituel. Et là aussi, non seulement la beauté, mais même la spiritualité peut être donnée aux paysans et aux classes sociales. Alors là aussi, c'est quelque chose qui déplaît, on va dire, aux grands bourgeois et aristocrates qui ont le pouvoir, etc. Juste un détail, ici, c'est l'église de Chailly-en-Bière. C'est que c'est le clocher. En fait, maintenant, vous avez la quatre voies qui traverse, qui sépare Chailly de Barbizon, mais il n'y avait pas la quatre voies. Et en fait, c'est la même plaine. Hein, c'est la même plaine. Et d'ailleurs, Chailly-en-Bière faisait partie de ce qu'on appelle l'école de Barbizon. C'est la même plaine. Hein. C'est le même univers. Et d'ailleurs, Jean-François Millet et Théodore Rousseau sont enterrés à Chailly-en-Bière. Hein, puisqu'on est dans le patrimoine, ici, je vous dis les trucs au cimetière de Chailly.
C'est toi, mais son musée d'Orsay.
Alors certaines, oui, les glaneuses, etc. Oui. Mais d'ailleurs, parce qu'il y a eu pétition. Alors là, vous voyez, il va même très loin. Alors, à l'époque, dites-vous qu'au XIXe siècle, la représentation des femmes dans la peinture académique, ce sont que des muses, des odalisques, etc. C'est un érotisme extrêmement codifié. Rappelez-vous que dans les années 70, quand Manet fait l'Olympia, c'est un vrai scandale. Donc, représenter des femmes ici, habillées comme ça, presque androgynes au niveau du visage, de la coiffure, etc., qui ont l'air effectivement, alors certains diront un visage abruti, mais on pourrait très bien voir au contraire un visage méditatif et pensif. Hein, elle n'est pas dans l'agitation, elle n'est pas dans l'action. D'ailleurs, plus tard, Gauguin, quand il va peindre les Tahitiens ou les Tahitiennes ou les Bretonnes, aura cette idée de gens qui sont en fait aussi dans la méditation. Et comment est-ce qu'on peut méditer avec une vache, avec des habits tout cracra? Mais les habits tout cracra, c'est quand même bleu, jaune, rouge. C'est l'essentiel. Alors, il y avait aussi avec Chardin et avec Millet l'idée qu'on est dans l'essentiel, dans le premier. La fonction, bah, les paysans, c'est eux qui nourrissent. La terre qui nourrit, l'agriculture et l'élevage, bah, on ne vit pas. Donc, c'est premier. Donc, finalement, la classe paysanne, c'est une classe première. On est dans les couleurs primaires, premières aussi, on est dans l'essentiel. Donc on ne va pas dans les fioritures, on ne va pas dans le spectaculaire, on est dans quelque chose d'épuré et aussi de monumentalisé par une lumière souvent rasante, parce que Millet, ce n'est pas pour un spectacle romantique qu'il utilise des couleurs du matin ou du soir, c'est parce que beaucoup des paysans, eh ben, travaillent le matin au lever du jour et au coucher du jour, parfois, etc. Et ce sont des lumières qui ne sont pas là pour faire joli, ce sont des lumières qu'ils connaissent. Des lumières qu'ils connaissent le matin, alors qu'on va dire un bourgeois parisien, un aristocrate parisien, il se lève, il a passé toute la nuit à l'opéra, il se lève à 10 h, etc. Il ne voit pas le soleil couchant, il est dans les cartes. Donc, vous avez aussi cette idée d'une nature qui n'est pas connue, etc. Alors, regardez par contre aussi comment il travaille. C'est-à-dire que ces artistes-là sont quand même proches de la nature, mais c'est une composition. Regardez comment il passe de ce cribleur de grains version 1, version 2. Celle-ci est beaucoup plus géométrique, le poids posé avec une composition en Y, les couleurs ici primaires beaucoup plus. Alors vous avez le rouge, le jaune et le bleu ici, mais là le rouge est juste presque un peu dans la ceinture et un peu dans le visage, et sinon jaune bleu. Donc là vous avez ensuite on sent beaucoup plus le poids du criblage sur le genou parce que il est beaucoup plus sur la jambe verticale. Là on a presque un mouvement, donc on est un peu dans l'instant, et là quelque chose qui pourrait presque durer éternellement. Donc, un travail de composition. C'est-à-dire que Millet, même s'il peint la nature de ses contemporains, hein, dans des paysages absolument presque dénudés, c'est quelqu'un aussi qui compose ses peintures. Alors, la vie paysanne, ah, j'ai remis l'Angélus, c'est aussi, alors les plus connus sont là, mais vous avez aussi ben, le quotidien de paysans, la naissance du veau, on plante un piquet. Alors, ce sont des valeurs aussi rassurantes. D'une famille, c'est que là aussi on est dans les valeurs premières, l'enfance, la maternité, et on retrouve quelque chose là de très très clairement sociologique par rapport à cette espèce de bruit de fureur parisien, etc., au moment de la folie parisienne, hein, de ce qu'on a déjà vu les années précédentes, quand on avait fait l'opéra Garnier, etc. Vous avez là quelque chose qui tourne le dos très clairement. Il est loin aussi des conflits sociaux ouvriers. Il y a trois révolutions presque au 19e, voire quatre. C'est quelqu'un qui se tourne justement vers quelque chose de rassurant, comme si là il y avait quelque chose de permanent. Donc vous avez la forêt, mais aussi le mode de vie paysan, une sorte de mythe paysan qui est très clairement développé. Alors il n'est pas le seul. Quelqu'un comme Bruegel l'a fait, Millet le fera, et on va voir que Van Gogh aussi le fera d'ailleurs d'après Millet. Donc c'est quelque chose aussi, et même Malevitch, et que le monde paysan aussi a ceci de fascinant que, à une certaine époque, plus maintenant avec l'industrialisation de la campagne, mais ça reste comme quelque chose aussi qui semble, vers lequel on semble se tourner dans des périodes très troublées. Là, vous avez encore de Millet. Alors, c'est toujours l'école de Barbizon, mais bien spécifique, Millet. Parce que si vous voulez, il est à Barbizon, mais il n'est pas du côté de la forêt de façon très, très claire. Et d'ailleurs, vous avez des textes qui disent que le matin, justement, ceux qui sont à l'auberge de Galle, ben, le matin, soit ils vont vers le nord, quand ils sortent de Barbizon, vers la plaine, soit ils vont vers le sud, vers la forêt. Ils se répartissent, mais ils se connaissent et ils échangent. Mais vous avez, ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est aussi le ramassage du foin que Van Gogh, d'ailleurs, va traiter par la suite. Van Gogh va reprendre ça et en montrant les couleurs justement de bleu, de rouge, de jaune qui sont expressionnistes, et avec cette idée aussi que la lumière, ça c'est Van Gogh, la lumière elle est en plus, elle est peut-être dans le ciel, mais elle est aussi dans les blés. Elle est aussi dans les blés en été. C'est-à-dire que là vous avez la paille, c'est la paille dorée, et là l'or des blés dans lesquels Van Gogh d'ailleurs suicidera, c'est quelque chose aussi, c'est que non seulement ils ont la lumière, mais ils embrassent la lumière. Hein, leur travail, c'est un travail, la poussière, la chaleur, etc. Mais il y a un corps à corps, alors là, pas fort corps à corps, et si Van Gogh va reprendre ça plus tard, c'est aussi parce que vous avez une sorte de fascination pour ces paysans qui ont une harmonie avec la nature. Ils ont une harmonie avec les saisons, avec les matières, avec la terre. Et ils ne sont pas dans la maîtrise, dans la domination. C'est un dialogue aussi avec la nature, puisque c'est un travail dur, mais ils connaissent les éléments. Au moment où l'industrie nous éloigne progressivement au XIXe siècle de la connaissance des éléments, ils sont de plus distancés. Vous avez les machines, vous avez tout ça qui fait que l'artificialisation du rapport avec tout le monde fait qu'il y a certainement aussi chez Millet cette idée, une catégorie de la population qui reste encore. Et vous voyez, alors par contre, le choix délibéré de l'ocre dominant, le rouge et le bleu et le jaune, toujours les éléments premiers. Et on retrouve des scènes aussi qui sont un peu rassurantes, c'est le moment du 4 heures et du casse-croûte. Bruegel l'a fait dans la fenaison et les moissons, ou aussi le monde paysan. C'est aussi une manière de vivre ensemble. À un moment où le 19e siècle, vous avez un cloisonnement de classe sociale, vous avez une paupérisation, la misère de la classe ouvrière décrite par Dickens en Angleterre, ou par Zola par la suite, ou par Eugène Sue sur la misère sociale à Paris. Vous avez encore l'idée que le village, malgré tout, il y a une solidarité. C'est un mode de vie aussi possible alternatif. Ce n'est pas encore une ZAD, mais si vous voulez, vous avez cette idée que vivre ensemble, c'est possible aussi, et avec une certaine autonomie et une certaine solidarité. Alors, ce n'est pas un mythe, là. Je pense que s'il le peint, c'est que c'est vrai. C'est encore vrai. Alors, par la suite, dans certaines zones, ce n'est pas aussi idyllique que ce qu'on pourrait croire, le monde paysan, mais c'est très clair que Millet, leur s'il vit au milieu d'eux, c'est que c'est vivant. Vous avez aussi là le couple, hein, la Méridienne, que Van Gogh va reprendre également. Alors Van Gogh, il le reprend 20 ans à peine après, hein, c'est tout. Hein, donc c'est... Et vous voyez aussi l'impact, c'est que l'impact de ces artistes-là, c'est très rapidement que d'autres vont faire une bascule vers un autre type d'art, mais en payant la dette. Vous avez aussi le repos dans les foins. Hein, avec un couple ici, donc il n'y a pas un érotisme direct, mais on peut imaginer aussi les foins, c'est aussi ce lieu-là, la solitude, la fatigue du travail, mais aussi un certain bonheur, un certain repos dans. Alors, Millet était aussi un très grand dessinateur. C'est un dessinateur, je vais vous montrer les peintures, et là on voit sa qualité dans l'utilisation, alors crayon, pastel, etc. Je sais pas exactement cette technique, c'est pas toujours évident à faire, mais ce qu'il a aussi de particulier, c'est que ses corps sont souvent un petit peu ronds, un peu massifs, modelés. Il y a quelque chose qui accroche bien la lumière. Ils sont bien, ce ne sont pas des silhouettes, ce sont vraiment des masses qui sont souvent au premier plan, donc monumentalisées dans un premier plan, et un lointain atmosphérique, un dégradé atmosphérique très clair. Et en même temps, ils ont des contours précis. Ce que on va dire, Gauguin va outré un petit peu Gauguin, il va remettre le dessin autour de ses figures, des figures aussi assez rondes, assez pleines. Et Bruegel traitait aussi déjà les paysans avec une rondeur, c'est une façon d'être aussi bien sur terre, de façon très claire. Alors voilà d'autres portraits de milliers de femmes au travail, comme s'il avait repris Chardin avec la pourvoyeuse, etc. Les femmes, alors l'univers féminin aussi, hein, qui est présenté ici, pas du tout selon les stéréotypes féminins de l'époque. de la beauté, mais aussi un autre type de beauté. Un travail difficile aussi. Les femmes aristocrates et bourgeois ne travaillaient pas, mais en fait, il y avait milliers de femmes qui travaillaient dans les catégories populaires, et on le voit ici à la campagne, je dis pas, et même dans les catégories, je veux dire, prolétaires, prolétarisées, industrialisées, et ça, c'est assez clair. Et alors, chaque fois, ce ne sont pas des portraits, et elles sont monumentales, elles sont seules, et c'est une manière de leur rendre hommage et respect. Alors, voilà une série, mais qui ne faisait pas une série. Et vous avez ce. Alors là, c'est le plus beau, il est à Orsay. Lumière d'orage au printemps, alors là, avec un arc-en-ciel, alors là, on est aussi l'instant. Hein, c'est quelque chose qui est notable. On avait vu dans la forêt, on le voit avec Millet, c'est l'instant, c'est tout à coup, et bref, instant. Un instant de merveilleux, une lumière d'orage. Mais ce tableau, je l'avais déjà dit, vous en souvenez peut-être, mais c'était à une autre séance, a été très mal perçu au salon. Parce que personne n'a compris, parce que Millet exposait quand même au salon. Hein, mais alors souvent, c'était moqué, ah, c'est qui ces paysans, c'est plus même Baudelaire qui pourtant défendait Courbet, trouvait que Millet faisait faire pitié, c'était un peu larmoyant, etc. Donc au salon, malgré tout, Millet était quand même reconnu comme un peintre qui savait peindre. Qui savait peindre, qui savait la lumière, qui avait l'anatomie, qui avait la lumière, qui avait les. Et puis c'était un monde aussi, il y avait un public quand même pour ça. Donc si vous voulez, même s'il ne gagnait pas beaucoup, il était connu. Et quand il peint ça, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Et quand on se penche un petit peu pour savoir pourquoi ce tableau est choqué, parce que c'est un potager, c'est un lieu de travail. Ce n'est pas un joli paysage. Un potager, ça ne peut pas être beau, parce que c'est un lieu de travail, c'est un lieu de production. Et le travail, les forces productives et tous les lieux de travail, dans la bourgeoisie et l'aristocratie, la classe dominante qui font la culture française, etc., le travail, ben, on ne regarde pas, c'est sale, c'est. Et en plus, les classes travailleuses sont des classes dangereuses. C'est vrai. Toutes les révolutions, les conflits, les émeutes, la violence. Et c'est aussi une nature. Ils sont pas. Il faut les dominer. Ils sont aussi comme la nature. Ils sont dangereux. La nature, elle est dangereuse. Il faut la dominer. Les flux sont intéressants que si on les domine. Les flux d'énergie, les flux de charbon, l'eau, toute l'énergie, c'est bien à condition de canaliser et de dompter. Si au contraire, on voit s'exprimer les forces vives, eh bien les forces vives, elles font peur, y compris même la féminité fait peur. La féminité est assimilée à la nature, dans la bourgeoisie du 19e siècle. Et donc, les femmes, bah, il faut les corseter par les habits, par le contrôle moral, par la religion, etc., etc. Et donc, vous avez cette idée aussi que la nature, c'est très bien, à condition d'être entièrement dominée, entièrement canalisée, et etc. Et donc, les forces, c'est pour ça que dans la critique de Courbet et de Manet, vous verrez souvent, c'est sale, c'est mal peint, c'est du travail de cochon, ça sent la suie, etc. Il faut se boucher le nez quand on approche, etc. De l'Olympia de Manet, il faut se boucher le nez, vont dire les critiques. Donc vous avez cette idée aussi qui est assez hallucinante, c'est que nous, ça nous semble un peu impressionnant, mais c'est vraiment quelque chose de très très clair. Or, les peintres réalistes, qui sont assimilés aux réalistes, et plus tard, les peintres impressionnistes sont souvent caricaturés en habits de travail, en bleu, en bleu avant d'être le blue jean, c'est le bleu de Nîmes, hein, vous connaissez l'histoire, en blouson, et ils sont présentés avec des pinceaux qui sont des pinceaux de peintres en bâtiment. Ils barbouillent, y compris comme ce n'est pas précis, ils laissent voir aussi la matière de la peinture, donc ça déborde. Donc ils ne dominent pas la nature, ils ne dominent pas la nature de la matière de la peinture. Pour que ça soit bien, il faut que la peinture elle soit domptée. Donc le néoclassicisme, l'académisme, c'est aussi idéologique, cette idée que on doit dompter, on ne doit pas laisser parler ce qui est trop proche du sol, etc., de la nature première, etc. Alors, ça semble, on a du mal à réaliser ça, mais c'est vraiment ça qui compte. Et là, alors que là, on est ébloui par la capacité de voir l'ombre, la lumière, le soleil qui doit être quelque part, qui est derrière, parce qu'il y a l'arc-en-ciel. Le gris plombé du ciel, l'instant fragile, et puis ce potager ben, qui sort ben, et qui pourtant en plus nous fait vivre. Donc, Millet incompris. Alors, les gardeuses, doigts, etc. Alors, tout ça, c'est Barbizon, mais c'est, si vous voulez, autour, au-dessus, hein, enfin au-dessus, au nord. Hein, donc, c'est assez que le même vers, en gros, vers Corbeil, etc. Dérivry, Corbeil, le nord. Alors, bon, je vais passer ces scènes, etc. Alors, juste une chose, ici, vous voyez, Daumier, qui est le grand caricaturiste, aura une. Les peintures de Daumier sont très inspirées de Millet. D'ailleurs, Daumier et Millet seront assez proches. Et toutes les peintures de Daumier, il a fait des caricatures, mais beaucoup de peintures, sont très très proches de cette esthétique-là et de ce monde-là. Et Daumier, lui, c'est plutôt un urbain, un citadin, mais il peindra le peuple parisien souvent de la manière dont Millet peignait les femmes. Alors, cet univers féminin aussi, c'est vraiment de l'intérieur, de la maison, des enfants. Là aussi, un soin donné aux enfants et au quotidien. Là encore, des populations qui n'ont pas voix, on va dire, au chapitre et à la représentation. Mais Millet le fait de façon systématique. Alors, il connaît ça parce que je crois qu'il a eu 7 enfants. Donc, voilà. Alors d'ailleurs, voilà, Corot donne 10 000 francs à la veuve de Jean-François Millet en 1875 pour l'aider à élever ses enfants. Corot, donc, toujours généreux, parce qu'il avait plus d'argent, etc. Donc vous voyez, il y a, même s'il payait de façon très différente, vous avez une reconnaissance mutuelle, hein, et ça c'est très beau. Et ensuite, je vous dis, par la suite, c'est Manet qui va faire une pétition qui va obtenir de l'État que la veuve de Millet puisse avoir une pension. Alors vous voyez ici le paysage genre, minimaliste complet. C'est-à-dire, vous avez aussi une démarche chez Millet qui est intéressante, c'est la radicalité de la composition. Il ne se passe presque rien. Sauf que si on regarde bien bah, les mottes, etc., au premier plan, c'est un véritable paysage. Et là, on devine quelqu'un et un petit troupeau de moutons, etc. Donc, dans le lointain, et le soleil, effectivement, du matin ou du soir. Alors, Millet aussi avec les lumières, la lumière de la nuit, la chasse ici au hanneton, le ciel étoilé. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va explorer des lumières différentes, qui sont vues justement ben, par les paysans, qui vivent la nuit dans la nature, etc. Donc, très original et extrêmement varié, peut-être plus que ce que l'on croit. Mais presque toujours des silhouettes au travail. Alors, j'avance un peu, ou on fait une pause si vous voulez. Oui, comme ça on peut aller aux toilettes. Bon, je vais boire un peu d'eau aussi. Si vous avez des questions, on peut en profiter aussi.
Les taches rouges là, que vous
Oui.
m'avez vu tout à l'heure, le micro là, c'est ça fait penser au maquillage, mais
Ah oui, alors.
c'était 1850.
Oui, alors les maquillages, oui, c'est. Alors après, ils font des taches un peu partout. Voilà. Donc, j'ai feuilleté un petit peu avec vous quelques artistes différents. Alors, la limite, effectivement, c'est que il est difficile, hein, j'ai abordé cette question, pour certains artistes de se distinguer. Donc, comme toutes les écoles, il y a un certain académisme hein, qui se met en place, et qu'il y a les paysagistes de Fontainebleau. Alors, il y a ceux qui essayent de faire vraiment du à la manière d'eux, comme dans toute école, hein, et puis il y a ceux qui vont essayer de se distinguer ou qui vont bien comprendre qu'il y a des portes ouvertes. Hein, on a vu, j'ai un peu montré la frontalité, la touche, la lumière, etc., la sociologie, le rapport à la nature. Donc, voilà. Alors, j'ai essayé de trouver, c'est assez difficile, mais en même temps, c'est presque un puits sans fond, hein, parce que vous avez des centaines d'artistes. Ils ne sont pas tous répertoriés, enregistrés. Certains sont juste passés à Fontainebleau ou à Barbizon. Mais alors, c'est assez émouvant. Si vous allez d'ailleurs dans presque tous les musées de province, entre guillemets, ou les petits musées, vous êtes presque sûr à un moment de tomber sur une peinture, une mare à Fontainebleau, un rocher à Fontainebleau, etc., par des artistes pas connus, ou inconnus. C'est que c'est vraiment, on le voit extrêmement répandu. Et je ne parle pas aussi là, je n'ai pas développé l'école de Bourg-Marlotte et les autres écoles lancées par Corot. Là, je suis resté, puisqu'on est dans le patrimoine, autour y compris du paysage local. Alors voilà, on retrouve hein, toujours Anastasie. Et vous voyez, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est la question carnet de voyage, la question de l'étude et la question de l'ébauche, c'est fondamental dans l'histoire de la peinture, parce que c'est ce qui libère progressivement les artistes de la forme attendue de la peinture qui soit entièrement contrôlée. Vous voyez, c'est un peu comme si en musique, on avait toujours entièrement imposé aux musiciens de faire l'orchestre à chaque fois. Un orchestre, alors, avec, je ne suis pas un musicien, mais les bois, les corps, les cordes, etc., les cuivres, etc., et puis une forme extrêmement codifiée. Et là, c'est un petit peu l'équivalent. Et puis, vous avez la dimension sociologique, évidemment, du statut de la peinture, qui est aussi une peinture de plaisir, parce que malgré tout, la peinture, elle est là pour on contemple. Si on contemple un paysage, mais aussi la peinture, on l'en contemple. Ça aussi, puisque la peinture ne dit rien de spectaculaire, eh bien, on attend du spectateur qu'il soit capable lui aussi de contempler. Et donc de la regarder simplement, sans forcément attendre une histoire, sans forcément attendre un dialogue ou un contenu ou une morale, ou tout d'un coup un grand sentiment. Puisque ce qui distingue justement l'école de Barbizon des romantiques, c'est que dans le romantisme du paysage, de Caspar David Friedrich, vous avez rapport à la vie, à la mort, au lointain, au songe, à l'ailleurs, à l'infini. Là, c'est peu abordé. Or, on pourrait avoir une dimension fantastique de la forêt. La nuit, quand même, dans les arbres, franchement, parfois, c'est impressionnant. Vous pouvez avoir aussi des orages, des catastrophes, des arbres brisés. Vous pouvez avoir une dimension spectaculaire. Mais aucun ne le fait. Donc, délibérément, dans l'école de Barbizon, vous avez aussi cette idée de retrouver une nature simple et qu'il faut apprendre à regarder pour ce qu'elle est. Et si vous peignez quelque chose qu'il faut apprendre à regarder pour ce que c'est, eh bien, la peinture aussi, il faut apprendre à regarder pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des taches, de la couleur, des peintures, des matières. Et vous avez donc quelque chose qui est étonnant, mais qui s'installe progressivement dans la tête des peintres. Alors, par exemple, je ne connais pas ce Jan Henryk Weissenbruch, mais c'est à peu près la même. Mais vous voyez, il peint la maison-atelier de Corot à Barbizon. Donc on voit déjà que Corot aussi devient vraiment la référence. C'est que tous ont vu dans Corot une puissance, c'est-à-dire une manière de pouvoir peindre autrement. Bon, d'ailleurs, là, on est en 1900, hein, donc si vous voulez, là, on est dans. Mais alors, ça a changé, hein, si vous avez la Barbizon. Il y a marqué le village des peintres, mais vous n'avez quasiment plus de peintres. Les galeries sont plutôt assez moches. Et vous avez des agences immobilières qui vous disent que c'est le village des peintres. Donc vous avez beaucoup de galeries, les vitrines que vous voyez, c'est des agences immobilières pour venir dans un village de peintres où il n'y a plus de peintres, qui sont remplacés par des agences. Donc une boucle. Mais ça reste quand même très joli. Et si vous allez jusqu'au bout, vous avez deux parkings et vous êtes au pied des rochers. Et il y a quand même. Et il y a un nouveau musée qui vient de s'ouvrir, gratuit, en face de l'Auberge Gane. L'Auberge Gane, c'est le musée officiel, c'est 5 euros l'entrée. Il y a un petit film, une très belle collection, hein, franchement. Et juste en face, l'ancien maire de Barbizon a acheté un très beau lieu. C'est un hôtel, restaurant, mais il y a un grand espace d'exposition de peintures, notamment scandinaves ou nordiques, sont inspirées par Barbizon, par l'école de Barbizon. Donc, et c'est gratuit. C'est donc, si vous allez là-bas, vous avez quand même deux lieux tout à fait visitables. Alors, vous avez quelqu'un quand même dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui est important, parce que c'est pas que. Alors, Barbizon, vous avez Barbizon, mais après, vous avez aussi les bords du Loing, Montigny-sur-Loing, Moret-sur-Loing, qu'on verra une prochaine fois avec justement Sisley. Et Charles-François d'Aubigny, c'est quand même à peu près la même génération. Eux, c'est une erreur, hein, c'est 1878. La peinture conserve, mais pas à ce point quand même. Hein. Et ben là, on voit Montigny-sur-Loing, les bords du Loing, qui sont une partie canalisée, puis une partie justement encore libre et sauvage. C'est pas directement. Alors Charles-François d'Aubigny a opéré beaucoup. Et vous avez, alors là, vous avez aussi un lien, c'est qu'à Auvers-sur-Oise, donc vous voyez, vous avez des lieux comme ça qui sont finalement qui attirent. Parce que Barbizon, Auvers-sur-Oise, vous avez avoir Marcoussis, etc. Et on peut visiter l'atelier, alors je ne l'ai pas vu, de Charles-François d'Aubigny à Auvers et qui a l'air absolument magnifique, où là vous avez tout d'un coup le paysage prend toute sa force presque de décor. Alors maintenant c'est à la mode immersif, mais vous avez cette idée que ce sont des peintures où le paysage est vraiment le sujet. Il n'y a pas, c'est pas un décor pour la guerre de Troie ou pour Ulysse ou pour autre chose. C'est vraiment là. Et la grande dimension en général n'était pas utilisée par les artistes de l'école de Barbizon. Donc, de ce point de vue-là, Daubigny est particulier. Alors, ici, on voit des marines. Je n'ai pas parlé, évidemment, Eugène Boudin, mais si vous voulez, le Eugène Boudin par rapport à la marine, par rapport au bord de mer en Normandie, à peu près contemporain, c'est un peu le Corot de bord de mer. Et si vous voulez, les influences de ces deux, Corot et Boudin, sur les impressionnistes vont être délibérées. Et quelqu'un comme Monet sera effectivement tantôt bord de mer, tantôt forêt. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait le lien entre ces deux grands inspirateurs. Charles-François d'Aubigny, donc un très bon peintre, et on le voit ici, alors toujours dans Barbizon. Alors il a une facture un peu plus classique, hein, un peu plus classique, mais il est rattaché évidemment à cette école. Alors, Bord-du-Loing, là aussi, si vous ne connaissez pas toute la vallée du Loing, il faut savoir que quand même à Grez-sur-Loing, il y a aussi plus tard, c'est quelque chose qui a attiré beaucoup de gens. Robert Louis Stevenson est venu séjourner à Grez-sur-Loing et il parle de la forêt de Fontainebleau. Vous avez aussi cette poétesse américaine début du XXe siècle qui est même décédée, et puis il y a un lieu à Barbizon, dans la forêt de Fontainebleau. Comment? Non. Ah, ça me reviendra. Vous avez aussi Patricia Highsmith qui a habité dans le coin, etc. Donc vous avez même une école de peintres scandinaves qui sont venus s'installer à Grez-sur-Loing. Et à Grez-sur-Loing, c'est encore d'ailleurs un centre culturel scandinave qui est installé là. Donc si vous voulez. Alors il y a aussi des choses, puisqu'on parle de la forêt, qui sont assez drôles. C'est que Stevenson, quand il parle de la forêt, il décrit des personnes, des jeunes qui s'installent dans la forêt, mais qui se plaignent déjà du bruit du train. Ils veulent fuir la modernité et ils trouvent qu'il y a le train finalement, c'est vrai, et on est déjà rattrapé par la modernité, etc. Ils entendent les motos dimanche. Alors, vous voyez, là, je suis un peu parti, l'Oise, donc Daubigny, parce que là, j'ai montré toujours la forêt, mais il faut savoir que la plupart de ces peintres ont aussi peint ailleurs. C'est que c'est un point de départ, et ensuite, c'est tout un regard sur la nature. Déjà, Corot lui-même, hein, il a peint l'Italie, il a peint presque toutes les côtes de France, les rivières, les forêts, etc. Mais c'est vraiment Barbizon son point de départ. On dit l'école parce que c'est l'école du paysage aussi. Donc, on peut imaginer l'impact que ça a. Et après, vous avez l'impact de l'école de Barbizon, il est aussi régionaliste. Vous allez voir les peintres du Nord, vous allez voir les peintres de la Bretagne, donc ils vont se spécialiser aussi parce qu'il y aura des spécificités, évidemment, et ça va durer évidemment très longtemps. Donc voilà. Mais à chaque fois, ça correspond quand même à cette même idée. Pourquoi ça, je l'ai montré deux fois. Jules Dupré, lui aussi, alors, on est un peu moins connu, mais très intéressant, avec l'arbre solitaire, évidemment. On voit les vrais monuments. D'ailleurs, sur les cartes IGN de la forêt de Fontainebleau, les arbres exceptionnels sont marqués. Vous pouvez aussi, si vous êtes fasciné, passionné par les grands arbres, les arbres un peu originaux, ils sont repérés et on les retrouve encore. Donc, il reste quelques arbres monumentaux et qui sont sublimes. Souvent, ils sont maintenant un peu noyés dans le tissu végétal, mais voilà. Donc, on voit, lui, c'est un peu plus son sujet. Alors Gustave Courbet, parce que Courbet, de 19, il est aussi venu à Fontainebleau. Il était, alors, donc c'est notable, hein, puisque lui, il avait son paysage à lui, il avait son rapport. Alors, il avait la Franche-Comté, il avait les bords de mer, etc. Mais dans Fontainebleau, il trouve aussi, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure aussi de frontalité, il trouve quelque chose qui lui convient tout à fait. Courbet est assimilé aussi à ce qu'on appelle le réalisme, un peu parfois comme Millet. C'est cette idée de peindre une nature ou des personnages sur lesquels on n'a pas d'idée préconçue. C'est pour ça aussi les gens qui travaillent de Jean-François Millet, comme les gens qui travaillent de Gustave Courbet ou la nature que peint Courbet, c'est une nature qui n'est pas littéraire. C'est une nature sur laquelle on n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée préconçue, donc on n'a pas de représentation. Donc quand on peint, on est frontalement confronté à un phénomène. Et donc, on est obligé de peindre sans la culture. En gros, Courbet, comme il est, se méfie aussi ben, de la culture qui empêche de voir. Hein, trop de culture empêche de voir. Parce que plus tard, Jean Dubuffet va parler asphyxiant de culture. Parce qu'on est dans une mise en scène, on veut péter la galerie, on veut être comme quelqu'un, ou etc. Au lieu de regarder vraiment ce que l'on voit. Donc, c'est Millet et Courbet sont des peintres aussi qui vont développer l'idée de l'œil. Regardez. Corot aussi. Regardez. Ne plus forcément. Ce n'est pas de la bêtise, ce n'est pas dire ne plus penser. Mais c'est dans un premier temps, regarder et témoigner. Donc, cette frontalité, on la comprend évidemment ici. Et alors, Courbet, c'est aussi quelqu'un qui a une manière de peindre, qui est aussi par écaille, presque parfois au couteau. Donc, c'est quelqu'un qui va réhabiliter aussi une certaine touche. Qui est importante, avec son travail aussi sur les roches. C'est quelque chose qu'il va trouver, puisqu'il a fait les carrières à la Loue, les grandes falaise qu'il y a dans Franche-Comté, près de Ornans, près de chez lui, c'est quelque chose qui est important. Donc, on le voit aussi, il est proche au niveau de la lumière de Rousseau, mais on voit qu'il a une touche différente. Donc, Courbet vient aussi à Barbizon. Coup de vent en forêt, alors là, ça lui ressemble peu. Hein. Ça lui ressemble peu, qui est autant de lointain, autant de ciel. C'est quelque chose qui n'est pas tellement dans les, y compris les événements comme ça, en général, il se méfie des événements, mais on retrouve sa touche ici. Alors là, je peux zoomer, hein, par eux. Alors lui, ce n'est pas des touches de pinceau, c'est des petites touches de couteau comme des écailles. Hein, ça ferait un peu sa marque de fabrique. Et il n'est pas du tout dans la séduction au niveau des contrastes colorés, etc. Il joue peu, lui, sur les volumes, mais plutôt sur les surfaces. Donc, toujours coup de vent en forêt, c'est Courbet. Alors, Harpigny, même génération que Courbet, différent, avec les grands arbres. Tiens, alors, je vais aller un peu plus vite, il faut que je parle. Toujours Henri Harpigny, il a des très beaux chemins, une lumière dégagée, très élégant, bord du Loing, des forêts de Fontainebleau, parce que ça se touche quasiment. Voilà. D'arriver à Bourg-en-Marlotte, c'est presque près du Loing, donc si vous voulez, tout ça, ça se touche. Hein. Gré-sur-Loing, Moret-sur-Loing, ça se touche. Toujours Harpigny. Donc, alors, il était surtout donc, connu sur le bord de Loire, mais il vient faire aussi, il vient tester. Fontainebleau, son regard qu'il a, c'est comme Courbet. C'est des gens qui sont connus ailleurs. Alors, des peintres régionaux aussi. C'est intéressant parce que Courbet, il est noté par la Franche-Comté, il est marqué par la Franche-Comté, Harpigny par la Nièvre et les bords de Loire, mais ils viennent aussi à Fontainebleau qui devient aussi une référence comme une sorte d'exercice pour les peintres, même d'autres régions. Il faut presque comme s'il fallait passer par Fontainebleau. C'est aussi une manière de se faire connaître parce que pour ces artistes qui sont des provinciaux, hein, comme Courbet, en passant par Fontainebleau, ben, vous allez rencontrer aussi des gens, il y a un peu plus de buzz, on va dire, de connaissances, il y a plus de monde, donc ça permet aussi de se faire connaître. Zienne, qui est aussi un peintre d'autres sujets, d'autres. Alors lui, il a un style bien particulier, panorama bien particulier, c'est à peu près la même génération, plus de contre-jour, presque des ébauches, comme on le voit ici. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, si vous voyez les ébauches, c'est que, voilà, toujours deuxième, c'est que les peintres académiques connus, les Bouguereau, les Gérôme, les Tadema, etc., tout cela, Rolle, Alfred Rolle, bon, quand on regarde leurs ébauches, elles sont très très bien, souvent elles sont très vivantes. Mais eux, après, ils sont vraiment les. Ils font des grandes peintures très très alourdies par le travail, il y a une sorte de virtuosité technique qui alourdit souvent leurs premiers jets, mais souvent leurs premiers jets sont aussi très beaux. Donc, ça aussi, c'est dans l'histoire de la peinture. Alors, Zienne, vous avez vu, hein, là encore, une touche très originale, large, parfois mat, hein, pas dans le détail. Alors, ce jeter, ce geste libre, c'est ce que l'on trouvera chez Degas et tous d'autres, bien sûr, après. Camille Flers, que je connais quasiment pas. Parfois, j'ai trouvé juste une ou deux peintures. Théophile, il s'appelle vraiment Théophile. Non, Théophile. J'ai cru que c'était Théophile. Théophile. Alors, Richard Parkes Burlington, lui aussi un peintre anglais. Alors, vous avez des étrangers, vous avez même, j'ai dit, il y aura des Scandinaves, des Anglais, etc. Et vous avez pendant le même temps, pas très loin d'ici, quelqu'un qui est à peu près de la même génération, mais qui est très différente, mais qui peut être aussi rapproché. Pas du tout à l'école de Barbizon, mais c'est quand même au niveau du patrimoine, c'est Rosa Bonheur. Elle est à Thomery. Alors Thomery, ça touche quasiment la forêt de France, ça touche Fontainebleau. Donc, si vous voulez, c'est près dans la forêt même. Un des arrêts pour aller à la forêt de Fontainebleau, c'est l'arrêt de BY, qui vous permet d'accéder à la gare de Lyon directement dans la forêt. Donc, Thomery. Mais Rosa Bonheur, elle est très différente. Vous pouvez visiter son atelier et musée qui a été restauré, rénové, salon de thé, qui est vraiment assez remarquable. Et vous rentrez dans son atelier, vraiment, il n'a pas bougé. Vous avez même sa blouse qui est posée, vraiment. Les pinceaux, un tableau qui est inachevé, qu'elle a achevé. Donc, c'est très intéressant. Alors, elle, ce n'est pas le paysage, ce n'est pas les travailleurs ou travailleuses, ce qui l'intéresse, mais avec une démarche qui est assez proche, c'est les animaux. Alors, c'est une jeune femme virtuose, très précoce, à tel point que, alors, j'ai essayé de vérifier, mais la guide nous avait expliqué ça, c'est que son atelier, elle a pu l'obtenir par une mécène, et elle avait cet atelier à 14 ans à Paris. Donc, elle est reconnue très très vite comme une véritable génie, une virtuose de la peinture. Elle a une technique extraordinaire. Son père était l'a aidé. Il était un saint-simonien, donc progressiste au niveau des idées, assez socialistes de l'époque, un petit peu. Par exemple, George Sand sera fasciné par le saint-simonisme ou la franc-maçonnerie. Vous avez beaucoup de gens qui, après les révolutions, avant, on va dire, le marxisme, essaient de trouver des utopies progressistes, après, on va dire, le coup de bambou de la restauration des rois, hein, et puis de la violence des répressions contre les révoltes sociales. Donc voilà, il y a un enjeu. Mais Rosa Bonheur a été reconnue alors de son vivant. Il y a même une sculpture en son honneur dans Fontainebleau avec un taureau. Et d'ailleurs, elle était, pour se faire reconnaître au salon, même très jeune, elle savait qu'il fallait, au lieu de, parce qu'elle aimait bien peindre surtout les vaches, les taureaux, les chevaux, etc. Mais jeune, pour se faire reconnaître, elle s'était dit, ce qui va être un peu mignon, des lapins, ça va plaire un peu plus. Et donc, elle a peint des lapins, mais ce n'était pas trop son truc. Elle voulait peindre plutôt des animaux un peu plus costauds, etc. Et ça lui a permis d'être reconnue à très très jeune, à une vingtaine d'années, comme une grande peintre animalière. Donc, voilà. Et là, Rosa Bonheur, par la suite, devient une personnalité à ce point connue que l'impératrice Eugénie va lui rendre visite. Hein. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un, c'est une femme, c'est une des femmes peintres les plus connues et reconnues de son vivant à l'époque. C'est un peu la George Sand, hein, en peinture, voilà, de la peinture. Et à peu près contemporaine. Alors, Rosa Bonheur, elle est alors une peintre virtuose. Alors, elle a gardé la technique académique. Hein, elle a appris, alors je ne sais plus dans quel atelier elle a pu aller, elle a suivi les cours, elle a copié les peintures à l'école, au Louvre, etc. Et cette peinture est une très grande peinture, hein, qui fait, je crois, 3 mètres de long. Et c'est le fameux Marché aux chevaux 1855. Donc, vous voyez, elle est contemporaine. Hein. Alors, pas de la première génération de l'école de Barbizon, mais on va dire de la deuxième. Courbet est de 1919, elle est de 1819, elle est de 1822. Donc, vous voyez, c'est assez proche. Donc, il y a cet intérêt aussi pour la nature, la réalité, ou le peuple, la ruralité, y compris des populations. On va le retrouver chez Rosa Bonheur. Et ce marché aux chevaux qu'elle ose faire comme ça, très très grand, alors elle est quand même jeune, elle a 33 ans, mais elle est déjà connue. Et cette peinture, c'est, je crois que c'est la peinture la plus chère vendue à cette époque-là, même en France. Et elle est achetée par des Américains. Elle est achetée par des Américains et elle va aux États-Unis. Et ça lui permet d'acheter le domaine de Thomery, plus de vivre largement, etc. Donc c'est une véritable fortune qu'elle a en. Alors elle est à Baltimore
De cette peinture-là.
avec cette peinture-là. Ouais. Cette peinture. Alors cette peinture-là, quand on regarde, elle est absolument extraordinaire au niveau de l'anatomie animale, de la connaissance des chevaux, de l'ambiance, du mouvement. C'est une des premières fois que vous avez autant d'action dans une peinture, un instant, avec les chevaux qui ruent, etc. Connaissance du monde animal, une technique picturale absolument remarquable, des volumes, des textures, des drapés, enfin, tout y est, y compris la composition très originale d'ellipse, quasiment, les chevaux qui arrivent. Et qui d'un coup repartent, hein, qui arrivent au premier plan comme un manège, c'est de ce point de vue-là, c'est un véritable chef-d'œuvre, y compris les touches colorées, légères, le rapport d'ombre et de lumière. Alors on dit, mais c'est pas faux, c'est que Buffalo Bill est tombé amoureux de cette peinture. Elle était tellement célèbre aux États-Unis que quand il est venu à Paris avec son cirque, il a voulu voir Rosa Bonheur. Il est venu visiter Rosa Bonheur. Il lui a même offert sa tunique et elle a fait le portrait officiel de Buffalo Bill pour sa tournée de cirque avec les Indiens, etc. Et vous avez la tunique de Buffalo Bill qui est au musée de Rosa Bonheur à Thomery. Cette peinture aussi, qui est au musée d'Orsay, a été, elle a que 27 ans, a été alors là un très grand succès, puisque alors moi-même j'ai toujours été fasciné. C'est hallucinant de précision. Les mottes de terre sont une beauté. Alors là, vous avez l'idée que les mottes de terre deviennent magnifiques. Là, vous avez aussi quelqu'un qui vous dit, mais beauté, la peinture, on peut s'attaquer à n'importe quel sujet. Puis c'est un hommage aussi rendu, ben, au monde rural, au monde agricole, aux animaux. Il y a évidemment la nature, mais l'animalité. Alors, elle vit au milieu d'animaux. Elle a des lions, elle a des singes, etc. Elle a une véritable ménagerie chez elle. Elle est complètement. Le monde animal, ça aussi. Elle le connaît de l'intérieur. On disait même que le seul mâle qui ait dormi avec elle, c'était son lion. Bon, Parce que, voilà.
C'est toujours une vision sexuelle.
Voilà. Mais c'est peut-être vrai. Alors, il y a quelque chose aussi qui a été peu relevé. Moi, je l'avais lu et j'ai eu du mal à le retrouver. C'est en 1849. C'est juste après la République, que Napoléon III va trahir. Il va élire président de la République en 1948 et en 1951, il fait son coup d'État. Mais ce qui est dit, c'est qu'en fait, il dit labour dans le Nivernais. Mais vous n'avez pas que des bœufs nivernais. Vous avez des bœufs de différentes régions de France. Et elle, ce qu'elle avait voulu montrer, en fait, c'était une sorte d'allégorie aussi républicaine de toutes les régions françaises qui tirent. Voilà. Et la charrue, c'est en gros, voilà, c'est aussi la charrue un peu de la République, si vous voulez, qui est tirée par toutes les régions de France. Parce que, en général, dans une région, tous les bœufs, ils sont de la région. Donc, si vous voulez, c'est aussi une connaissance qu'elle a aussi des bœufs de toutes les régions. Mais quand on connaît aussi sa formation, Rosa Bonheur, son histoire aussi avec son père, là, qui l'a aidée, puis ensuite, c'est un peu fâché, mais enfin, globalement, elle était quand même d'inspiration un peu sociale et progressiste, un peu comme George Sand, d'ailleurs. Et George Sand aussi, qui va écrire des textes sur la nature, le Champi, Petite Fadette, etc. Enfin, les textes de George Sand sont sublimes, y compris sur ce rapport à la nature, elle-même aussi, régionale et parisienne. Donc c'est très beau. Et alors là, cette peinture est stupéfiante, la qualité des bleus, des dégradés, les modes de terre, les bœufs qui sont véritablement des personnages qui bavent, etc. Mais vous voyez, ce n'est pas le travail aussi souffrant, dur, la solitude du paysan de Jean-François Millet. C'est quelque chose de différent. Donc, dans ce modèle-là, alors on parle d'elle plus comme une naturaliste, plus que comme effectivement une réaliste. Parce que le réalisme a quelque chose de plus brut. Elle, il y a une sorte de presque de lyrisme dans la mise en scène de ces animaux. Et alors, les chevaux, ce n'est sans grande passion. Chevaux libres, quand même. Ça aussi, ça, ce ne sont pas des chevaux attelés, presque toujours des chevaux libres, chevaux de groupe. D'ailleurs, au musée de Rosa Bonheur, ils ont trouvé, ils ont trouvé un vieux rouleau, il faut que c'est une toile vierge, ils l'ont déroulé, c'était un dessin préparatoire de 4 mètres de long sur encore une course de chevaux, etc. Donc, Alors, elle a peint aussi dans différentes régions, elle. Elle va voyager. Alors, elle est très connue, elle a des moyens, et à chaque fois, elle va rendre hommage à cette interaction entre le type de chevaux, le type d'animaux, le type d'agriculture et la région. On va voir la Bretagne, Pyrénées, j'ai fait une photo.
La Bretagne, c'est humide.
J'en sors, je suis bronzé, je passe mon temps là, j'en arrive. Soleil tout le temps. Ah oui, c'est la Bretagne, oui, c'est parfois humide. Parfois humide. Là, c'est humide. Et donc, vous voyez, alors. Costumes, etc. Et puis, alors ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas propre au peintre. Presque tous beaucoup d'artistes, même parfois avec un peu de commisération. Flaubert va faire par les champs, par les grèves, la Bretagne, la campagne, c'est pas trop son truc, mais il va quand même voyager. Vous avez aussi ce qu'on appelle les antiquaires au 19e siècle dans la littérature. Ceux qui vont chercher, ils vont chercher aussi l'intérêt pour les mégalithes, ça date de cette époque-là, l'intérêt pour la campagne, pour les costumes et les coutumes locales dont on sent bien qu'elles vont peut-être disparaître. Pour les parler locaux, même le recensement des chansons et des chants bretons ou de la langue bretonne se fait par un aristocrate, Ersard la ville marquée, qui va tout enregistrer. Donc vous avez aussi, la connaissance des régions françaises fait aussi partie du 19e siècle, ça devient aussi un bien public. C'est plus l'aristocratie, les nobles qui possèdent, c'est aussi la France. Donc vous avez un développement de l'idée de la nation qui naît au 19e siècle. Et pas dans, y compris de la gauche et la droite, on va dire, hein, sur Napoléon III, ou y compris certains socialistes, ou entre guillemets, ou progressistes, vont voir cette idée que, voilà, la France se constitue aussi par ses régions et son lien à la terre et au paysage. Alors, c'est une portraitrice de vaches. Hein, donc, pour elle, voilà, les vaches, c'est des individus, c'est pas un troupeau, c'est des individus et on les regarde. Et Courbet, d'ailleurs, elle a fait aussi des vaches. Alors là, c'est plus du tout le spectacle du cheval libre. Et on retrouve la fascination qu'avaient plus que les Égyptiens. Même dans le désert du Tassili, vous avez toutes ces grandes vaches, tout l'art du bovidien, c'est exceptionnel. Ça reste l'animal le plus nourricier, paisible aussi, fascinant. Jusqu'à Buffet va peindre des vaches. C'est un animal qui, en plus, a une structure très dessinée, qui peut être à la fois carrée et ronde, etc. De profil ou de face, etc. Donc, toutes les races, tous les types de vaches, sorte de répertoire. Les moutons en montagne ou en bord de mer, là aussi. Donc, alors, là, c'est pareil, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'anecdote, il ne se passe rien, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de drame. Mais le monde animal reconnu aussi, pas uniquement comme de la viande, comme vivant, comme aussi un rapport à la nature bien spécifique. Et ça, c'est quand même aussi des pistes qui, en plus, maintenant, nous parlent peut-être plus que, on peut dire que de 1880 jusqu'à, voilà, 10 ans, la prédation, la maltraitance animale, on sait ce que c'est. Là, vous avez quelqu'un qui aussi voit les animaux de façon très différente. Et c'est en ce sens-là aussi son l'intérêt pour elle. Elle va même aller aussi dans les Highlands. Hein, donc tout à coup, le monde animal devient un sujet. Mais son point à chaque fois, c'est toujours Tomri. Hein. Tomri, c'est le lieu dans lequel elle vit, elle aime vivre, et même si elle fait des voyages, comme on le voit ici. Alors, ça, c'est un peu plus spectaculaire, c'est un côté exotique, mais comme les vaches d'Highland. Là, il pleut, d'accord. En Écosse. Et puis, ben, Buffalo Bill. Hein. Buffalo Bill et les Indiens des plaines. Mais les Indiens des plaines, alors là, reconnus. Alors, elle va faire le portrait de Buffalo Bill, mais elle reconnaît aussi, elle sent bien que les Indiens des plaines aussi, ils ont un rapport aux animaux et à la nature qui est différent. Buffalo Bill, c'est quand même aussi le destructeur de bisons. Hein, c'est vraiment. Et puis, il utilise les Indiens un peu comme voilà, comme le cirque. Il les déguise, il fait son cirque. Il y a même des grands chefs indiens qui ont participé à son cirque parce qu'ici, ils crèvent, etc. Mais Rosa Bonheur, elle est fascinée aussi par le mode de vie des Indiens et leur rapport à la nature. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on découvre. C'est la conquête de l'Ouest américaine à l'époque. Mais c'est marrant de voir que ça vient jusqu'ici. Donc ce rapport à la nature, et ces artistes-là comprennent aussi ce qui se passe aux États-Unis dans la conquête de l'Ouest. Et qu'il y a aussi quelque chose qui est peut-être pas aussi drôle que Buffalo Bill. Alors là, voilà. Portraituré par son amie, compagne et complice Anna Klumke, qui était une grande peintre aussi, dont on dit parfois qu'elle faisait d'ailleurs les cieux de Rosa Bonheur, donc c'était une collaboration. Et là, la voilà, par Édouard Dubuff. Elle était toute petite, elle était vraiment petite, toujours comme ça, et avec son animal. Alors là, on a presque Pasiphaë et le taureau, c'est un amour. Le bœuf, le taureau ne fait pas peur, au contraire, une très grande complicité. Et là, c'est vers la fin de sa vie, parce que elle est devant un tableau qui est resté inachevé, qui est dans son atelier. Donc c'est assez émouvant aussi. Hein, et on la voit. Alors, elle est en pantalon, comme George Sand d'ailleurs, et elle avait une autorisation préfectorale à renouveler tous les 6 mois pour pouvoir s'habiller en pantalon. Ce qu'on appelait se travestir. Et normalement, elle n'a pas le droit de sortir en pantalon. Dans son atelier, oui. Comment?
C'est bon temps.
Alors, bon, ben, pas pour elle, mais. Alors,
À
donc.
l'époque, en 40.
Non, non, ah oui, Anna Klumke, oui.
Ah, Alain
Anna
Klumke. Ah
Klumke.
oui, c'est
Non,
ça.
non, Rosa Bonheur, elle est née, elle est morte. Voilà. Et voilà les portraits de Rosa Bonheur. Alors là, on la voit décorée de la Légion d'honneur, etc. C'est quelqu'un qui, voilà, est devenu une véritable personnalité. Alors, après, la question, c'est que le style de Rosa Bonheur, c'est un style au niveau de la peinture. Quand on commençait à s'intéresser à la touche, à la manière de peindre, eh bien, Rosa Bonheur est apparue comme un peu désuète.
Et dans le contenu, quoi.
Voilà. Alors, pas du tout dans les sujets, mais sa manière, tu as raison. Elle a gardé une technique qui est celle des académiques. Ce qui fait que, par exemple, quand vous lisez, si vous lisez, par exemple, Berthe Morisot, qui est plus jeune d'elle que 18 ans, hein, ne s'intéresse pas du tout, alors qu'ils ne sont pas loin. Hein. Quand Berthe Morisot est à Valvin, Rosa Bonheur est à Thomery, Mallarmé ne s'intéresse pas du tout à Rosa Bonheur. Et si vous voulez, même donc si vous voulez, elle est vraiment à part parce qu'elle est ni dans les, on va dire, pré-impressionnistes, artistes du paysage, etc. Ses peintures, c'est vraiment la peinture d'atelier, etc. Et elle n'est pas non plus dans les peintres académiques qui, eux, font des grands sujets à Paris, etc. Donc elle est très originale dans son genre. Et par contre, elle est un peu redécouverte aussi, évidemment. Alors maintenant, dans les peintres, justement, un peu plus récents, qui vont quand même justement prendre le relais de l'école de Barbizon, vous avez justement quelqu'un comme Claude Monet. Alors, Cézanne aussi est venu à Barbizon. Hein, vous avez les peintures de Cézanne, Claude Monet, donc ils sont. Monet est né en 1840, hein, donc vous voyez, c'est plus du tout. C'est presque 50 ans après Corot, et 30 ans après Millet, donc c'est une autre génération. Le travail, on va dire, de la nature a déjà été fait, mais les premiers Monet, eh ben, il faut aller dans la nature. Alors là, vous avez avec Monet, ici, alors j'ai trouvé les quatre versions, hein, parce que c'est quatre versions. Alors là, on a déjà l'art de Monet pour les séries aussi. C'est exceptionnel. Et le défi pour Monet, c'est de peindre la perspective, le lointain, et en même temps de travailler la surface de la peinture. Et progressivement, d'ailleurs, on voit sa touche qui est de plus en plus libre, hein, de plus en plus flou, etc. La masse ici, la perspective du chemin de Chailly fait que tout d'un coup, là, on a presque un flou, presque une sorte de peinture là, qui est extrêmement simplifiée au niveau des touches et des techniques. Alors, il faut savoir que ça, en fait, au début, il voulait s'en servir pour le décor de sa grande trilogie du Déjeuner sur l'herbe. Ce grand Déjeuner sur l'herbe, d'ailleurs, il a peint non pas à Paris, mais à Chailly-en-Bière. Il y a d'ailleurs maintenant l'auberge du Cheval Blanc de Chailly-en-Bière. Vous avez un grand panneau avec une reproduction de la peinture en disant Monet. Alors, il y a deux déjeuners sur l'herbe. Il y a celui de Monet et celui de Manet. Celui de Manet est beaucoup plus radical, etc. Celui de Monet, c'est plus coloré. Vous avez des robes, vous avez des gens. C'est un triptyque magnifique. Et il l'a peint là-bas. Donc, si vous voulez, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que. Et au début, il avait prévu de faire ses personnages sur ce décor-là. Finalement, il a abandonné. Il a fait le déjeuner sur l'herbe, très grande peinture aussi, hein, c'est haut. Alors Monet aussi, tout d'un coup, s'écarte de la peinture de paysage, des petits formats pour s'étaler en surface. Puisque plus il découvre la couleur, plus il découvre aussi le geste, ben plus, pour que le geste soit le plus expressif, il faut qu'il ait de la place. Donc il faut que la peinture devienne grande. Vous avez ça aussi, c'est que les peintres impressionnistes vont progressivement quand même aussi avoir des peintures qui sont un peu plus grandes pour justement on puisse étaler la peinture, voir le geste, étaler les couleurs. On n'est plus dans l'illusion de la profondeur. Alors là, Chemin de Chailly, alors ce qui est magnifique, c'est que, alors pas ça par contre, ce sont des paysages que vous pouvez voir, ce n'est pas les rochers, ce sont les grandes allées forestières qui ont été construites soit pour la chasse, soit pour les débardages, etc. Maintenant, dans la forêt de Fontainebleau, vous avez soit les allées de chasse qui sont toutes avec des carrefours et des rayonnements, comme ça vous pouvez repérer où le gibier passe quand vous êtes en chasse à cours. Enfin, pas moi, je fais ça, les chasses à cours peuvent repérer où le gibier passe, on les voit de loin. Et là, vous pouvez. Ça. Donc vous avez ça, mais vous avez aussi les allées qui sont plus fonctionnelles pour le bois. Et là, c'est le moment où il n'y a plus de carrière, etc. Monet s'intéresse moins aux carrières, etc. Alors là, c'est assez drôle, c'est que Monet peint. Alors, cette peinture, elle est. Par contre, je ne sais plus où elle est. Je ne crois pas qu'elle soit en France, elle doit être aux États-Unis. C'est le chêne Bodmer. Le chêne Bodmer, c'est ce chêne extraordinaire. Je crois qu'il n'existe plus. Parce que je crois qu'il a été. Il est mort définitivement, voilà quelques dizaines d'années. Mais il a vécu très longtemps, ce chêne. Donc, c'était déjà un personnage. Et Monet, là, se coule un petit peu dans la tradition aussi des peintres de Barbizon. C'est intéressant de voir ça, hein. Même si ça touche et Alib, c'est pas encore le Monet des fractions de la touche. Ce qui est assez marrant, c'est ce fameux Bodmer. Que ce fameux Bodmer, d'ailleurs je me suis trompé, je vous ai montré ça comme un autre artiste, alors c'est de Bodmer. Karl Bodmer, c'est un Allemand aussi, alors, qui vient à la forêt de Fontainebleau, qui va peindre la forêt de Fontainebleau, qui allait toujours sur son chêne, puisque c'était son chêne. Il était tellement. Alors, il allait méditer sur le chêne, c'était devenu le chêne Bodmer. Mais Bodmer, c'est aussi le grand peintre, un des grands peintres des Amérindiens. Il va aussi aux États-Unis et c'est peut-être les plus beaux témoignages sur les costumes et les postures, etc., des Amérindiens, c'est Bodmer. Et là, de nouveau, on retrouve le lien forêt, nature et les Amérindiens, comme aussi peut-être bah, le dernier peuple enfin, connu, proche, et aussi en train de disparaître. Donc, si vous voulez, c'est assez touchant de voir que pour certains peintres, les paysans français étaient aussi un peu comme des. Et les Indiens, comme un peuple aussi, amenés à disparaître. Alors, ils ne dénoncent pas le massacre, mais ils sont sensibles aussi à un rapport nouveau à la nature. Voilà de Bodmer. Alors, vous avez Sisley. Alors, je représenterai Sisley, on le verra un peu plus quand on verra, parce que autour de Moret-sur-Loing. Mais Sisley, alors lui, il est plus récent aussi. Et vous avez des transmissions qui sont faites. Sur les Sisley, il est de l'école de Barbizon. Nous, on voit que la Barbizon va influencer des gens comme Courbet, dans un sens. On va voir Monet, Cézanne aussi. Sisley, et Sisley, c'est lui qui va être le professeur des deux sœurs Morisot. Hein, donc, vous allez avoir aussi transmission. Alors, Sisley, lui, il va être de l'école de Marlotte, donc un petit peu. Alors, Bouron-Marlotte, c'est ce village qui est très joli, très étendu, un peu au sud de Barbizon, vers Moret-sur-Loing, et qui a une longue tradition ensuite de village d'artistes, puisque même Renoir, père, enfin, il était le peintre Renoir qui était proche de Mallarmé. Et ensuite, Jean Renoir, le cinéaste, va tourner la partie de campagne à Bouron-Marlotte. Vous voyez aussi, c'est intéressant parce qu'on va voir tout à coup ce rapport à la nature va arriver jusqu'au cinéma, comme Renoir, et d'ailleurs, dans lequel la captation de la lumière, l'instant, etc., les rapports, c'est quelque chose. Il y a une transition qui se fait très progressivement sur presque 100 ans au niveau du sujet. Alors voilà, Sisley, qu'on viendra. Et toujours Alfred Sisley. Alors lui, c'est vraiment Moret-sur-Loing, 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 Moret-sur-Loing. Mais Sisley, alors c'est plus la forêt, hein, c'est beaucoup les bords de rivière, comme on ne le voit pas ici, mais il le fera beaucoup. Et le village de Moret, qui a peu changé, qui est aussi un très village que je vous incite à aller voir, notamment le canal du Loing et le Loing qui se rencontrent là avec le moulin, c'est très beau. Et vous avez un petit musée Sisley, bon, moyen, mais vous avez tous ces paysages. Donc, puisqu'on est dans le patrimoine Sisley. Alors, toujours Sisley, alors Moret-sur-Loing, alors, vous avez toujours la même vue, là aussi, où c'est touchant, que ce soit la forêt de Fontainebleau, chaque fois que vous y promenez, ben, vous avez l'impression de voir toutes les peintures que je vous ai montrées, ça n'a pas bougé. C'est le plus premier site classé au patrimoine mondial, donc, si vous voulez, c'est protégé maintenant. Vous avez quand même les carrières, etc. Moret-sur-Loing, c'est pareil, hein. Vous avez les bords de Loing, c'est pareil. Les bords de Seine, à Samoy, Valvin, on verra plus tard, c'est pareil, ça a un peu changé. Donc, la peinture aussi nous aide à retrouver le paysage. Dans le paysage, on retrouve la peinture. La peinture nous parle du paysage, vous savez, le plaisir qu'on peut avoir de voir des paysages avec le regard des peintres, c'est le cas de Sisley. Alors, on voit Sisley, lui a déjà une peinture fractionnée, vraiment comme les impressionnistes. C'est-à-dire que là, on va se détacher de cela. Et alors, toujours les vues de l'église de Moret par Sisley. Alors, vous voyez, 39, il a l'âge de Manet-Monet, hein. Mais il campe, et c'est toujours, alors là, l'église de Moret, alors, elle vient d'être nettoyée, ça n'a pas bougé. Vous êtes sur le bord, hein, vous voyez exactement la même chose. Alors, vous voyez, hein, là, quand je parle de la touche de Sisley, très clairement, il y a une évolution vers ce qui fera ensuite, ben, le grand art des impressionnistes, cette légèreté, cette apesanteur et le geste. Et donc, c'est un peu un héritage direct de la touche de Corot, hein, qui, tout à coup, met avec ce qui va changer beaucoup avec les impressionnistes, c'est le travail sur la couleur. On n'est plus dans des couleurs, on va dire, naturelles, puisqu'on va transcrire la lumière par des couleurs beaucoup plus vives, des couleurs beaucoup plus pures. Il n'y aura plus de noir, il n'y a plus d'ombre noire, l'ombre est colorée, etc. Il n'y a plus la continuité aussi de la touche. La vibration, c'est peindre l'air et plus uniquement le sujet que l'on regarde. Ça, c'est assez clair. Et vous avez quelqu'un quand même qui va revenir aussi. Alors là, je vous montre la transition, c'est que vous avez en fait une école du paysage qui continue en France. Quelqu'un comme Albert Marquis, alors là, clairement contemporain de Matisse et qui meurt en 47, donc qui lui va aussi peindre dans le même. Alors, il peint beaucoup les ports, les rivières, il va surtout peindre ça. Mais il a aussi séjourné dans la forêt de Fontainebleau à Samoy-sur-Seine. Alors Samoy, c'est dans la forêt de Fontainebleau. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Samoy. C'est alors, il y a des péniches, il y a des petits restaurants, c'est absolument magnifique. Hein. Il y a une île, enfin, c'est idyllique. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de monde. Hein. Vous pouvez boire. Comment? Il ne faut pas le dire. Mais, oh, là, on est en. Voilà, on est en petit.
Non, petit comité.
Mais Samoy-sur-Seine, et puis si Django Reinhardt y a séjourné, c'est que ce n'était pas mauvais non plus. Hein, donc voilà. Et le peintre Odilon Redon. Et la Seine, bon ben, la Seine à Samoy, on peut faire du paddle, on peut se baigner. Hein. Et voilà, toujours la Seine à Samoy par Albert Marquis. Alors, c'est intéressant aussi de voir que ce paysage-là, eh bien, finalement, il continue. Hein. Il a continué pendant presque un siècle à attirer c'est préservé, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Hein. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont logé aussi à Samoy. Il y avait une résidence d'artistes, il y avait un Barbizon, il y avait un Bouron-Marlotte, il y avait les plâtreries. À Samoy, c'est le bas Samoy, vous avez ça, et le haut Samoy est assez joli, mais vous avez donc des résidences d'artistes, et même encore assez longtemps, donc avec parfois des très belles maisons, etc. Donc voilà, et Marquet, c'est celui qui a continué, parce que le paysage, ben, c'est un art à part, si vous voulez, par rapport à tous les artistes qui vont chercher sur la forme, les sujets, etc., des audaces, des radicalités. Vous allez voir une continuité sur que nous dit la nature, le regard, l'œil, la contemplation. D'ailleurs, est inauguré actuellement à Vuitton le grand peintre contemporain qui continue, c'est David Hockney. David Hockney, qui lui continue à s'interroger sur le regard sur la nature et en peignant la Normandie, les paysages, etc. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas épuisé et qui comprend les nouvelles technologies. Et alors, Marquet, au lieu d'aller vers le fractionnement de la touche des impressionnistes, au contraire, lui, il va faire ce qui était aussi présent chez Corot, c'est des touches très larges, assez épaisses, assez lentes, etc. Il y a quelque chose de posé, il n'y a pas d'agitation. Et on le voit aussi dans une manière très précise, mais alors avec un œil extrêmement subtil sur les lumières. Voilà, en fait, c'est fini. J'ai fini avec Marquet. Alors, est-ce que vous avez des...